Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, bonjour, comment ça va?
Comment ça va? Incroyable. Ça va, c'est fini la canicule. Ça y est, c'est terminé, c'est la fin de la mode. C'est la fin de la mode de la transpiration. On retourne dans des trucs beaucoup plus classiques. Merci Laure Bébé, merci I Am Poupie, Thor Drax, Borapsody, Maïsaki. Merci beaucoup. Merci Enclume, merci Louis. Les canicules sur balle. Je l'ai. Elle est très belle. Elle a été faite en titre d'un article dans la PQR, je sais plus où. Repos post-Japan Expo. Ah, la Japan Expo, comment ça s'est passé, la Japan Expo? J'ai vu que Gabriel Attal, il est à la Japan Expo. Est-ce que vous avez fait des selfies avec Gabriel Attal à la Japan Expo? C'était le bandeau de BFM. C'était le bandeau de BFM, la canicule 100 balles? J'adore. Macron y est allé aussi. Quoi? Macron était à la Japan Expo? Mais qu'est-ce qu'il allait foutre à la Japan Expo? Parce qu'autant Attal, peut-être qu'il a lu des mangas à un moment dans sa vie, c'est possible. Autant Macron, non. J'ai du mal à imaginer Macron. Non, si, je sais pas. La Japan Expo, c'est the place to be. Bah, faut croire, ouais. Si, attends, si t'as Macron et Attal. Est-ce que c'est encore hype la Japan Expo? C'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est encore hype la Japan Expo? J'en sais rien, j'y suis jamais allé. Ça va répondre à ta question. Moi, je suis allé à la PGW plusieurs fois, notamment à la soirée presse, pour boire de l'alcool gratuit. C'est pas moi, c'est Mister MV qui m'engrainait. Macron, il a fait un Kamehameha avec l'équipe de Dragon Ball. Avec Brigitte Lecordier? Ou Brigitte Cordier, tout court, d'ailleurs, je sais jamais. C'est le cordier, c'est le cordier. Vu le monde, je pense que oui. Ouais, ça a l'air quand même d'être toujours hype, la Japan Expo. Ça a l'air d'être toujours assez hype, la Japan Expo. Non, je sais pas, j'y suis. Je vous dis, j'y suis jamais allé. J'ai jamais été un weeb. J'ai jamais été un weeb. J'ai jamais lu de manga. C'est pas mon truc. Ça a jamais été mon truc. Je connais pas. Attendez, bougez pas, j'ai un appel. Excusez-moi, je la rappelle, je la rappelle, je vous rappelle, je rappelle. C'est Macron Hôtel, c'est ça, c'est Macron qui m'appelle et qui me dit Kamehameha. Non, mais ça va. Merci Mathieu Burgalassi pour ton raid. Bonjour les raideurs de Mathieu Burgalassi, installez-vous confortablement, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Jean Massier, je parle d'actualité politique sur cette chaîne depuis 10 ans, putain. ouais, je fête ma 10e année de stream. On fêtera ça en septembre, quand ce sera vraiment l'anniversaire. Et je viens à peine de commencer mon live. Je viens à peine de commencer mon live. C'est une petite revue d'actu en général. Pas toujours comme ça, mais en général, le lundi, on fait une revue d'actu. On essaye de se remettre un petit peu dans le bain de l'actualité politique après le week-end. On a tous pensé à autre chose pendant le week-end, ça nous a fait du bien. Et on a besoin de se retendre les nerfs avec l'actualité politique. Et donc, on fait ça collégialement en début d'après-midi. T'as pas de chien, j'espère. Pourquoi? C'est quoi le rapport entre 10 ans et un chien? J'ai pas la ref, j'ai pas la ref. Michel, pas la ref. Michel, pas la ref, c'est quoi la ref? Attends, et ça, faut que l'eau sur le côté. Attends, il y avait un article trop bien que j'ai vu passer. J'ai accepté de pas le lire en disant je vais le lire avec le chat. Je pense que ça va intéresser le chat. Il est là. Voilà. On verra ça tout à l'heure. La durée de vie d'un chien. Quoi, c'est 10 ans un chien? C'est pas plus? C'est 10 ans l'âge moyen d'un chien? Je croyais que c'était 15 ans, 20 ans. Non? Ou alors je confonds avec les chats? Non, les chats non plus, tu me diras ça. Un gros chien, c'est 10 ans. Sérieux? Oh. Eh, c'est pas beaucoup, hein? C'est une private joke venant de chez Mathieu. Il a raconté une anecdote. Ah, d'accord, c'est une blagounette de chez Mathieu. D'accord, pardon, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait une rêve culturelle intégrale que tout le monde connaissait sauf moi et que je passais pour un con parce que j'ai pas la rêve, parce que 10 ans, un chien, tout ça. D'accord. C'est plus c'est petit, plus ça vit longtemps. Un gros chien, c'est 12-14 ans. D'accord. Les huskies, normalement, c'est autour de 15. Si vous commencez à vous battre à coups de marques de chiens, moi, j'y connais rien. Moi, je suis nul en chien. Moi, j'ai toujours été un homme à chat. Je suis pas bon en chien, j'y connais rien. Là, j'ai passé le week-end avec des amis en Bretagne, du côté du Mont-Saint-Michel. Et ils avaient un chien, un staff, un énorme chien. Un gros chien qu'il fallait éduquer. Bah, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps d'éduquer le chien pour pas qu'il aille manger les autres petits chiens qui passent sur le trottoir. Moi, j'étais très admiratif du temps passé à éduquer le chien. Alors qu'un golden... Et les golden, c'est ceux qui sourient tout le temps, c'est ça, ceux qui sont contents tout le temps. C'est les gros chiens toujours contents. T'es meilleur en chien ou en manga? Ni l'un ni l'autre, j'y connais rien en marque de chien, j'y connais rien. Chaque fois que je vois un chien passer dans la rue, je fais c'est quoi ça? Je sais pas, je connais pas, je sais pas. Autant les chats, je sais identifier, c'est un chat. Autant les chiens, je sais pas. Éduquer le chien pour les Bretons. Ah bah ouais, faut éduquer le chien, hein. Attendez. Hop. Tu sais qu'il y a aussi des marques de chats? Oui, je crois qu'il y a aussi des marques de chats, mais alors ça, pareil, j'y connais pas grand-chose. Moi, je sais chat de gouttière, je connais chat de gouttière. Ça, je sais identifier chat de gouttière. Persan. Et encore, je les confonds avec plein d'autres. Je connais les chats à poils courts et les chats à poils longs, ça je sais reconnaître. Je connais les chats roux, je connais les chats blancs, je connais les chats... ouais. Birman, siamois. Ah, siamois, je sais reconnaître. Siamois, je sais reconnaître grâce aux aristochats. Parce que j'ai quand même vu le documentaire Les aristochats quand j'étais petit, donc je sais reconnaître les siamois. C'est les chats méchants, là. Les chats beautés, je sais reconnaître les chats beautés aussi, ça j'ai vu le documentaire Shrek. J'ai vu le documentaire chats beautés, donc ça je sais reconnaître. Persan, British Short Hair, non, ça je saurais pas reconnaître. Les chabites de Chirac, oui, les chabites, ça je sais reconnaître les chabites. Faut pas faire ça, hein, c'est une agression, faut pas. Maine Coon, je saurais pas reconnaître les Maine Coon. Ah, c'est pas ceux qu'on la gueule écrasée là? C'est pas les chats à la mode sur Instagram qu'on la gueule écrasée? Les chatons aussi. Ils sont très grands. Ah, c'est les giga grands, les Maine Coon. C'est les énormes chats. Ouais, d'accord, je l'ai. Non, bah, je confondais avec autre chose alors. Ouais, c'est les chats géants. Ouais. Non mais je vous dis, je suis pas bon, hein. Je suis pas bon, hein. Bon, et sinon vous avez fait quoi de votre canicule? Est-ce qu'il y en a qui se sont baignés dans la Seine? Est-ce qu'il y en a qui se sont baignés dans la Seine? Bon, ça a été ouvert que pendant une journée, parce qu'après il y a eu des averses de pluie et ça a ressali l'eau de la Seine, mais ça va réouvrir bientôt. Est-ce que vous iriez vous baigner dans l'eau de la Seine? Parce que comme ça a été interdit pendant un siècle, il y a quand même, l'idée a bien été ancrée dans la tête de tout le monde que la Seine était dégueulasse. Sauf que maintenant qu'elle a été dépolluée, il va falloir que l'idée s'ancre dans la tête de tout le monde que c'est OK de se baigner dans la Seine. Mais ça va prendre du temps, hein. Je pense que pendant 20 ans, 30 ans, on aura encore des gens qui diront « Non, moi, j'ai pas confiance. » Alors que pourtant, la propreté de l'eau de la Seine, c'est open data, donc il n'y a pas de raison de croire qu'elle est sale alors qu'elle est propre, quand on sait qu'elle est propre. On va attendre quelques décennies. Ouais, mais c'est normal, hein. Non, c'est normal. Après un siècle de fermeture, après un siècle d'interdiction de baignade pour cause de pollution de l'eau, c'est normal que t'aies le cliché ancré très profondément dans la tête que c'est pas propre. C'est complètement normal. J'attends que Macron y va et après j'aurai plus confiance. Hop. Ils mentent comme pour les eaux de Nestlé. Alors ça, c'est l'autre solution, effectivement, c'est la version complotiste, c'est de considérer que on nous ment. Ça marche à tous les coups, hein, ça marche pour tout d'ailleurs. Ça marche pour tout. Perso, je travaillais dans un restaurant sans clim, j'ai cru que j'allais mourir. Force à tous les serveurs et les cuisiniers. Moi, j'ai pensé aux cuisiniers, ouais, pendant le Covid, là. Ben, le Covid, pardon, la canicule. Pardon, excusez-moi, je confonds les phénomènes de mode. Et j'ai pensé aux cuisiniers dans les restos, putain, le courage, hein, quand même. Avoir des plaques de cuisson, là. Ta casserole, ton wok. Waouh, 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 waouh. J'ai vu un truc aussi comme quoi les autorisations de baignade étant de la responsabilité de la ville en cas d'accident, on a tendance à interdire par défaut pour éviter les emmerdes. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais la propreté de l'eau de la Seine, c'est une donnée qui est publique, hein. C'est pas des informations qui appartiennent à la mairie de Paris, etc. C'est de l'open data, ce qu'on appelle de l'open data, pour ceux qui connaissent pas. L'open data, c'est le fait de donner ouvert, de laisser ouvert, accessible à tous, les citoyens, les internautes, les chercheurs, les journalistes, l'ensemble des données brutes pour que chacun puisse compiler ces données. Et donc normalement, tu as un site internet, je sais plus lequel. Qui te présente la qualité de l'eau de la Seine, les mesures qui sont faites quotidiennement, à plusieurs moments de la journée, à plusieurs endroits de Paris. Je connais pas le site, j'y étais allé une fois il y a longtemps, avant les JO. C'est pas que l'eau de la Seine, c'est quasiment tous les cours d'eau de France. Oui, par ailleurs, en plus, t'as raison. Là, je parle de la Seine à Paris, parce que la Seine à Paris a été réouverte à la baignade. Mais oui, t'as raison. Tu peux même vérifier toi-même si tu veux, il y a des labos. Oui, tu peux vérifier toi-même la propreté de l'eau de la Seine, oui, c'est vrai. Ouais, Macron 2032. Alors, c'est le titre du stream. Macron 2032. Dis donc. Va falloir qu'on en parle au bout d'un moment, parce que vous savez, moi, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Emmanuel Macron est parti pour durer. Il n'y a aucune raison qu'Emmanuel Macron disparaisse en 2027 et qu'on n'entende plus jamais son nom de l'histoire. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est un président jeune. Il a été élu président de la République à 39 ans. Il a fait deux mandats, il va quitter le pouvoir à 49 ans. 49 ans pour un homme politique dans ce pays, c'est pas très vieux. Regardez, même Dominique de Villepin est en train de revenir 20 ans plus tard, alors que lui, déjà, il y a 20 ans, il n'était pas très vieux. Il n'était pas très jeune, pardon. Donc non, 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 Emmanuel Macron, on verra ce que lui a envie de faire après la politique. Mais il y a moyen qu'après la politique, il ait envie de faire de la politique. La plupart des anciens présidents de la République qui ne sont pas morts après leur dernier mandat ont essayé de revenir en politique. Ont essayé, ont réussi, ça dépend comment on regarde les choses et tout. Sauf Giscard, tiens. Giscard, après 81, il n'a pas essayé de revenir. Il a été président de région, il était député, président de région. Mitterrand, il est mort. Chirac, il n'est pas mort, mais il était très vieux, donc de toute façon pour lui c'était sûr qu'il n'allait pas, ça, il allait pas recommencer à faire de la politique après son mandat en 2007. Sarkozy, je vous rappelle qu'il a repris la présidence des Républicains et qu'il a été candidat à la primaire en 2016. François Hollande, je vous rappelle qu'il a été réélu député et qu'il y en a deux, trois qui se disent qu'éventuellement François Hollande pourrait nourrir des ambitions pour 2027. On verra. Chirac condamné en plus. Ouais, Chirac a été condamné après son mandat. Mais il n'a pas été jugé inéligible à ma connaissance. Je crois pas. Donc, la conclusion de l'histoire, c'est qu'il y a moyen. Il y a moyen qu'Emmanuel Macron revienne. C'est un article de l'UMA qui a révélé qu'Emmanuel Macron laisse entendre une candidature pour 2032. Emmanuel Macron laisse entendre une candidature pour 2032. Le président de la République a fait une apparition surprise au meeting des jeunes avec Macron, organisé pour fêter leurs 10 ans. Le président a laissé entendre qu'il pourrait se présenter en 2032, alors que les questions sur son potentiel successeur en 2027 se multiplient. Jupiter va-t-il s'accrocher à son fauteuil? Le président de la République a fait une apparition surprise à l'occasion du meeting des jeunes avec Macron, les JAM, devenus ce samedi 5 juillet les Jeunes en Marche, JEM. Près de 1300 personnes, selon leurs organisateurs, étaient réunies cet après-midi dans la salle du 11e arrondissement de Paris pour les 10 ans des Jeunes avec Macron et l'avenir du mouvement. Devant la marée de chemises blanches et jeans baskets. J'avoue que c'est un peu le cliché. Les jeunes avec Macron, c'est que des étudiants en études européennes, en école de commerce. C'est que du jeune cool, mais de droite. Donc c'est chemise blanche, manches retroussées, chemise dans le pantalon, jean, basket. Basket blanche. Mais c'est obligatoire. Il faut savoir que c'est obligatoire. Hein. Si vous adhérez aux Jeunes en Marche, vous devez avoir le look. Sinon, vous n'êtes pas invité aux soirées. Et les soirées, c'est pareil. Hein. Tout le monde s'habille comme ça. Pardon, excusez-moi. Si j'en étais où? Devant la marée de chemises blanches et jeans baskets, Ambroise Méjean a dit ces derniers mots. Oui, il y a aussi des gens qui s'appellent Ambroise. C'est normal. Faites pas attention. Faites pas attention. A dit ces derniers mots de président des JAM, dont le futur remplaçant n'est pas encore connu. Un nouveau président et un nouveau nom pour préparer l'après-Macron, dont ce dernier a voulu freiner les ardeurs. Je suis venu vous dire que ce n'est pas fini. Je vais avoir besoin de vous encore pour les années qui viennent, a adressé le président de la République à ces jeunes poulains. Serait-ce l'annonce d'une potentielle candidature à la présidentielle de 2032? Comme se le demande également le streamer Jean Massier? À l'heure où tout le monde ne parle que de la fin du macronisme et de son successeur pour 2027, Emmanuel Macron a tenu à rappeler qu'il était loin d'avoir dit son dernier mot, alors que certains de ses proches, à l'instar de Gabriel Attal, ne cachent plus leur ambition présidentielle. Pour 2027, avec vous, je veux proposer un chemin, s'est-il exclamé, avant de confirmer tout faire pour conduire dans 2 ans sur le chemin de la victoire. Pour vous conduire dans 2 ans sur le chemin de la victoire, accompagné d'une brève standing ovation. Attal président, quelques dizaines de minutes plus tard, Emmanuel Macron venait rappeler qu'il était le patron. Si dans les 2 ans qui viennent, on passe notre temps à parler de 2027, à ne rien faire, à être dans les calculs, à être dans les divisions, ça ne sera aucun d'entre nous dans 2 ans. De quoi refroidir son ancien Premier ministre alors que celui-ci partageait la scène avec la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher ou encore l'ancien ministre des Transports Clément Beaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va être candidat en 2032? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va tourner le dos à la politique et se barrer? Ou est-ce que vous pensez qu'il a été piqué par le virus et qu'il veut absolument revenir? Qu'il va pas supporter de plus être au pouvoir? Il va devenir chroniqueur sur Backseat, il va se mettre à commenter l'actualité. Ça, il va dépérir s'il fait ça. Il a le droit, c'est pas limité à 2 mandats. Ah oui, pardon, pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas limité à 2 mandats, le nombre de mandats que vous pouvez faire au cours de votre vie. Vous pouvez faire plein de mandats de président de la République, la seule limite qu'il y a, c'est que vous n'avez pas le droit d'en faire plus de 2 consécutifs. Donc au bout de 2 mandats consécutifs, vous ne pouvez pas vous représenter une troisième fois. Donc vous êtes obligé de laisser passer au moins un mandat, et ensuite vous pouvez reprendre, vous pouvez vous représenter. Est-ce qu'il peut être Premier ministre en 2027? Oui, il peut, oui. Il n'y a rien d'illégal au fait pour un ancien président de la République de devenir Premier ministre. C'est aux États-Unis où c'est limité à 2 mandats stricts, c'est ça? C'est une bonne question que tu poses. Je crois effectivement qu'aux États-Unis, c'est la limite, elle est stricte. Je crois que tu as raison qu'aux États-Unis, c'est deux mandats dans l'absolu. Pas plus de deux mandats au cours de ta vie. Pourquoi en France, c'est pas de mandat strict? Parce que c'est pas de mandat strict. Parce qu'au moment où la décision a été prise en 2008, on a décidé d'interdire de mandat consécutif, mais de pas empêcher de mandat supplémentaire. Faut que ça reste possible et à la disposition du peuple français. C'est le peuple français qui décide. On peut pas empêcher les gens de se présenter aux élections. Donc, non, moi j'en sais rien, je sais pas, je réfléchis. Hein, est-ce que Macron va impérativement vouloir revenir, vouloir être candidat, vouloir redresser son camp? Est-ce qu'il va réussir à retrouver ses électeurs originels, ceux de 2017, ceux de 2022, qui n'ont pas été déçus? Je suis pas sûr. Est-ce que les électeurs qui seront partis définitivement, ou est-ce qu'ils seront capables de revenir? Il reviendra que s'il a des bons sondages, sinon il fera une Hollande. Ouais, je sais pas. Il a quand même dit qu'il aurait besoin d'eux dans 5 ans, dans 10 ans, dans les 5 ans et les 10 ans à venir. Bah, il semblerait qu'Emmanuel Macron n'ait pas l'intention d'abandonner la politique dans les années qui viennent. Mais après, la politique, ça peut être fait au niveau européen aussi. Hein. Peut-être qu'il va vouloir se choper un poste au niveau européen, devenir président du Conseil, par exemple. C'est ce que Nicolas Sarkozy était suspecté d'avoir voulu faire dans le traité de Lisbonne en 2008, de créer le poste de président du Conseil pour le lorgner. Mais bon, comme il a perdu la présidentielle en 2012, c'était un peu compliqué, quoi. Il voulait pas entrer à la FIFA. Diriger la FIFA. Bah ouais, carrément. Il est fan de l'OM, je crois, Macron. Il a rien à voir avec la FIFA, du coup. Oui, mais dans les postes européens, c'est pas les électeurs qui choisissent, donc il n'y a pas besoin d'eux pour les 5 ou les 10 ans qui viennent. Non, mais là, il parlait pas aux électeurs, il parlait aux jeunes en marche. Il parlait aux jeunes en marche. Alors, les jeunes en marche. C'est marrant d'avoir repris l'ancien nom du parti, d'ailleurs. Pourquoi ils sont appelés En Marche? Alors qu'aujourd'hui, ça s'appelle Ensemble. Enfin, ça s'appelle Renaissance, pardon. Non, mais on verra. Est-ce que vous voterez Emmanuel Macron en 2032? Alors attention, ma question, elle est précise. Est-ce que vous voterez Emmanuel Macron au second tour face à Jordan Bardella, qui se présentera pour un deuxième mandat? Je sais pas, hein, Est-ce que vous ferez barrage en votant pour Emmanuel Macron? Pour dégager Jordan Bardella de l'Élysée? Je te déteste. Ouais, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Barrage dans la rue. Ouais, alors c'est cool la rue, on aime bien, on aime, mais les urnes aussi c'est important du coup, pour déterminer qui c'est les personnes qui vont diriger dans les 5 ans qui viennent. Genre, en fait, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Je suis une femme, je ne pourrai plus voter, je pense. Oui, c'est possible. Oui, tu as raison, j'y avais pas pensé. Il y en a peut-être qui vont perdre le droit de vote. Peut-être que moi aussi, je vais perdre le droit de vote d'ailleurs. Ils vont faire voter une loi. Je sais pas ce qu'ils vont nous inventer comme loi. Ils vont inventer l'obligation de temps de parole, d'égalité du temps de parole sur Twitch. Ce genre de conneries. Interdiction aux Franciliens de voter. Les votes à gauche ne comptent pas. Oui, c'est ça. Je sais pas, ils vont s'inspirer de Trump, ils vont nous faire un truc. Ils vont nous faire un truc un peu particulier. Le vote des policiers compte double. Plus de droit de vote pour se lister comme des islamo-gauchistes. Ouais, voilà, c'est ça, ce genre de truc. De toute façon, Bruno Retailleau aura les pleins pouvoirs comme il le souhaite. Pourquoi il souhaite les pleins pouvoirs, Bruno Retailleau? J'ai pas suivi ça, moi. Interdit de voter, c'était pas milliardaire. Ah oui, le suffrage censitaire, tiens, ils pourront faire le suffrage censitaire, ça marche bien. Il faut payer des impôts pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Bardella président avec Premier ministre Macron. Alors, gardez en tête un truc, hein. Gardez un truc, hein. C'est que le président de la République n'aura pas forcément de majorité à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'on va avoir Jordan Bardella président de la République, et ensuite mobilisation et union de la gauche aux élections législatives. Victoire, mais cette fois-ci écrasante, du nouveau Front populaire, et Lucie Castet, Première ministre. Avec 200, elle aura 300, 310, 320 députés. Voilà. Ou l'inverse. Alors, on aura peut-être. On aura peut-être Jean-Luc Mélenchon, président de la République, mais échec aux élections législatives. Victoire à la Pyrrhus du Rassemblement national, Jordan Bardella nommé Premier ministre. Hein. Ou alors on aura une configuration mixte. On aura une configuration mixte. Quel que soit le président de la République, on aura une espèce de coalition gouvernementale avec les écologistes, les socialistes, les macronistes, qui réussiront, bon an, mal an, à créer une espèce de majorité d'anti-blocage. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Qu'est-ce qu'il faut imaginer, anticiper comme situation? À gauche, bah c'est assez classique. Pour le coup, il n'y a pas très grand, y a pas grand-chose de surprenant à gauche, puisqu'il n'y a pas de candidature commune qui impliquerait la France insoumise. La France insoumise a l'intention de faire cavalier seul et de présenter une candidature, peut-être celle de Jean-Luc Mélenchon, mais peut-être pas. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon va décider qu'il est trop vieux et qu'il faut qu'il passe la main. C'est possible. J'en parlais avec quelqu'un dont je tairai le nom. Parce que il est grand reporter politique à l'Humanité, donc s'il se reconnaît, il va m'en vouloir. Mais qui me disait que lui, son shot in the dark, c'est Jean-Luc Mélenchon se retire et propulse. Alors bon, bah on sait pas encore qui. Hein. Bompard, Panot, Guettet, à voir. Moi, j'ai du mal à y croire. Hein. Je pense que Jean-Luc Mélenchon va vouloir y aller. Et dans le reste de la gauche, il y a eu une réunion le 2 juillet dernier qui a réuni les représentants de différentes formations politiques en vue d'une union dans la perspective d'un programme commun, puis de la présentation d'une candidature. Alors, ils n'ont pas encore arrêté définitivement le processus de détermination de cette candidature, mais on sait qu'il y a les écologistes, les socialistes, les membres de l'après, donc les purgés de la France insoumise, quoi, quelques autres satellites de gauche, mais il n'y a pas place publique avec Raphaël Glucksmann qui lui se prépare de son côté. Donc pour synthétiser sur ce qui se passe à gauche en ce moment, il y a ceux qui ont décidé de déposer une candidature autonome, ou en tout cas on suspecte qu'ils ont décidé de déposer une candidature autonome, c'est les insoumis, les communistes et place publique. Et puis il y a tous les autres qui ont décidé de se réunir pour dire venez, on essaye de trouver une voie commune pour déterminer une candidature qui nous est commune à nous. J'ai du mal à imaginer place publique exister si le PS ne le soutient pas. C'est intéressant ce que tu dis, effectivement. La question, en fait, il faut bien comprendre, et c'est ça qui est une architecture à garder en tête, c'est que l'élection présidentielle est une élection radicalement différente des autres élections. Ça ne marche pas du tout de la même manière. Il y a des élections dans lesquelles tu as besoin d'avoir un ancrage territorial pour pouvoir réussir. Il y a d'autres élections dans lesquelles tu peux simplement avoir une incarnation et ça peut fonctionner. Rappelle-toi d'Emmanuel Macron en 2016, qui n'a pas de parti politique derrière lui, qui n'est soutenu par personne, qui crée son propre mouvement et qui arrive à devenir président de la République 6 mois plus tard. Parce que l'incarnation a suffi. Place publique, si c'est derrière Raphaël Glucksmann, ça peut suffire à porter une candidature. Alors, ça peut être un succès. On a vu Emmanuel Macron encore une fois en 2016, 2016-2017, et puis ça peut être un échec ou un demi-échec, comme Éric Zemmour par exemple. Éric Zemmour, soutenu par personne, qui crée son propre parti, qui s'appelle Reconquête, qui se barre à la présidentielle et qui fait 7%, ce qui est un score décevant par rapport au score qu'il se promettait de réussir à faire, mais ce qui est un score non négligeable par rapport à d'autres partis, dont certains partis ont une large assise territoriale, comme le Parti Socialiste, comme les Républicains, qui eux se sont pétés la gueule. Soutenu par la sphère Bolloré quand même. De quoi? De qui? Éric Zemmour? Ça justifie d'autant plus ce que je disais sur le fait que sa candidature est une déception. Si t'es soutenu par la sphère Bolloré et que t'arrives à faire que 7%, c'est quand même pas ouf, hein. Comment ça, soutenu par personne? Il a inondé les médias, il a eu des signatures. Oui, mais je te parle de structure politique, de parti politique. La personne me faisait une réflexion dans le chat en me disant « C'est dur d'imaginer place publique réussir à faire quoi que ce soit sans être soutenu par le PS. » Et moi, ce que je vous réponds, c'est que le soutien d'une structure n'est pas forcément nécessaire pour une élection présidentielle. C'est pas déterminant. Vous avez besoin d'avoir 500 signatures, vous avez quand même besoin d'avoir des militants, vous avez besoin de rameuter, etc. Mais il y a quand même, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes au cours de l'histoire qui ont démontré que c'était faisable. C'est ça que je veux dire. Donc, place publique, avec Raphaël Glucksmann, à la présidentielle, ils n'ont pas besoin du PS. C'est pas déterminant, quoi. Aujourd'hui, les médias ont tellement de pouvoir qu'ils remplacent les partis. Je sais pas, parce que les médias, enfin, ça dépend sur quel type d'électorat. Sur les personnes âgées, oui. Ceux qui regardent la télévision, la télévision reste le média dominant en France. Mais après, t'as quand même un morcellement qui est constaté. Et puis, on a aussi des phénomènes aux États-Unis, en Ukraine, dans certains pays, qui nous ont montré qu'on peut être surpris aussi par les réseaux sociaux. On peut être surpris par les réseaux sociaux avec des candidatures à laquelle personne ne s'attend. Qui réussissent à cartonner parce que soutenus par un large maillage de reprises sur les réseaux sociaux. C'était le cas de Volodymyr Zelensky sur Facebook. C'était le cas de Donald Trump à sa manière, hein, quand il a gagné la présidentielle en 2016. Ça a été surprenant pour beaucoup de monde. Obama aussi. Obama en 2008, ouais, dans une certaine mesure, Obama en 2008 aussi a été une candidature relativement surprise. En tout cas, la méthodologie de sa candidature a été particulière. Il allait chercher des petits donateurs, ils ont fait du porte-à-porte de manière très insistante dans les quartiers les plus populaires des États-Unis et tout. Enfin, c'était une nouvelle manière de faire de la politique. Il y avait un vent de fraîcheur qui était assez surprenant. La TV a quand même beaucoup de pouvoir en France. Macron en 2017, c'était pas un ministre très populaire. Et c'était même un ministre inconnu, hein. Macron, c'était un inconnu. Enfin, je veux dire, quand il a lancé son mouvement, il était ministre de l'économie depuis quelques mois, mais il n'avait pas eu le temps d'être connu de la part de tous les Français. Il a créé son mouvement En Marche. Je me souviens, j'étais en stream. On était en live. Il y en a qui s'en souviennent. Est-ce qu'il y en a qui étaient là sur mon stream. À l'époque, ça s'appelait Acropolis, ma chaîne. On avait fait un live pour le lancement du parti politique En Marche. On avait commenté en direct le discours d'Emmanuel Macron. Il y a Ponce qui était là. Évidemment, Ponce, t'étais là, bien sûr. Acropolis, banger. Bien sûr. Bon, les gens qui disent qu'ils étaient là, vous mentez. Vous mentez, personne n'est aussi vieux que ça. Personne n'est aussi vieux que ça. Mais à l'époque, lancement du parti politique d'Emmanuel Macron, en live, il avait fait un meeting à Paris, comment ça s'appelle, à la Mutualité. Il était à la Mutu ? Il était à la Mutu, je crois. Je crois que c'était à la Mutu. On était en live, et moi, je disais... Moi, à l'époque, je disais, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Le mec, il est ministre de l'économie depuis 2 mois, personne ne sait qui c'est, il n'a pas de parti, pas de structure. Moi aussi, j'étais en mode... pas de parti, pas de structure, pas d'ancrage local. Ça peut pas marcher. Ça peut pas faire un président de la République. T'as besoin d'un RPR, t'as besoin d'une UMP, t'as besoin d'un parti socialiste pour être président de la République. Tu peux pas être président de la République comme ça. Salut, je débarque, je crée mon parti, bonjour, ça va ? Voilà. Bah ça, c'est ce que je disais à l'époque. Et je vous le dis tout de suite, le chat était d'accord avec moi. Je vous vois venir, hein, là, tous ceux qui font les marioles, en mode, moi, je savais, moi, j'avais vu. Moi, je le disais depuis le début, hein. C'était sûr. Hein. C'était sûr que Macron, il allait gagner. Hein. De toute façon, c'était écrit... Je me souviens de vous dans le chat. Hein. Je me souviens. Vous disiez exactement la même chose que moi. PTDR, t'es qui ? C'est qui, ce Macron ? Il se prend pour qui à être candidat à la présidentielle ? Au niveau de la primaire de Castel, leur débat va se faire vraiment uniquement sur l'incarnation. Aucun débat politique sur leur désaccord de fond entre le libéralisme du PS, la politique plus sociale de l'après, etc. Si, ils ont l'intention de se mettre d'accord sur un programme commun. Bon, ça va être le programme du NFP. Hein. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire un programme commun avant de faire une primaire. Merci Lionel Lospin, merci LT, merci Anarcholigarque, Billy Bonbarn, Antoulm, Perceval, Bluntet Bunny, Danchebut, Mefkat, Beberet, Dounis, Charcojo, Vals, JB, Inkaya, Ichidev, Catcode, Arnaud Deliac, Canard. Mais merci beaucoup à tous. Merci Super Titou. On n'oublie pas la dégringolade de Fillon. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais t'as raison. François Fillon, alors... François Fillon n'a pas tant dégringolé que ça. Hein. Moi, je vous rappelle quand même que François Fillon, il a été visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier en urgence sur des soupçons d'emploi fictif sur son épouse Pénélope pendant la campagne présidentielle. Le mec, il arrive devant... Il arrive devant Mélenchon. Mélenchon qui se réveille au second tour quand même, qui se retrouve en quatrième position derrière Fillon. C'était pas facile pour Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, on l'a tous vu dans le film Le Président, qui relate la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On voit la tronche de Jean-Luc Mélenchon quand il découvre qu'il est en quatrième position. Il est pas content. Hein. Donc ouais, non, la dégringolade de Fillon, il s'en est bien tiré quand même, Fillon. Hein. Il a quand même réussi à faire un 18% carré, malgré les casseroles, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas particulièrement de casseroles et qui ont fait moins de 5%. Quoi. Je pense à Valérie Pécresse, en l'occurrence. Mais c'était plus tard. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi ? La conclusion de tout ça, c'est quoi ? La conclusion de tout ça, c'est il ne faut pas jeter l'eau du bain dans le bébé. Enfin, bah, vous m'avez compris. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Un parti politique, ça peut être nécessaire, mais c'est pas déterminant pour un succès à l'élection présidentielle. Un candidat hors système peut faire une percée surprise. C'est encore possible. On peut être très surpris. On va se retrouver avec un Francis Lalanne à 25% au premier tour. Vous allez voir tout rouge. Cyril Hanouna, non mais tu vois Ponce, t'as raison, l'hypothèse Cyril Hanouna, qui est une hypothèse intéressante, c'est une hypothèse intéressante parce qu'elle nous met face à ce paradigme qu'on n'a pas trop connu en France, qui est la possibilité du clown. La seule chose qu'on a connue en France comme clown, c'était Coluche, à une autre époque, dans les années 80, Coluche qui menaçait de faire une dizaine de pourcents, qui menaçait un petit peu le Parti Socialiste, mais c'était sans commune mesure avec ce qu'on a connu dans d'autres pays. Je vous rappelle que Volodymyr Zelensky était un comédien humoriste qui a été élu président de la République. C'est vraiment un clown qui a été élu président de la République sur une campagne radicale de lutte contre la corruption, en l'occurrence. Merci Liro qui offre un sub à Ponce, c'est très sympa. Et merci Liro pour ton réabonnement. Super Titou également, et Oja Winehouse. Donc, il y a le clown en Ukraine, il y a le clown aux États-Unis qui s'appelle Donald Trump. Je rappelle que Donald Trump se présente à la primaire du parti républicain aux États-Unis. Personne ne le prend au sérieux. Personne dans les médias, personne dans l'économie, personne dans l'establishment du parti. Tout le monde considère que ce mec est un clown, c'est un débile, c'est un homme d'affaires, il n'a rien à faire en politique, il n'y connaît rien, il n'a jamais été élu, il n'est pas gouverneur, il n'est pas représentant, il n'est pas sénateur, il n'y a rien du tout, etc. Et bien non seulement Donald Trump remporte la primaire sur un discours de radicalité absolue, et un discours très creux d'ailleurs à l'époque, et en plus il remporte la présidentielle dans la foulée. Donc je vous donne ces deux exemples de pays étrangers qui sont des pays avec lesquels on a quand même une culture commune, un système démocratique, etc. Pour vous montrer que c'est déjà arrivé à l'étranger qu'on soit très surpris par le résultat. Donc un Cyril Hanouna, candidat à l'élection présidentielle, sur un discours ultra populiste, ultra engagé, ultra caricatural, etc., peut réussir à faire plus de 20%. Javier Milei aussi. Ouais, Javier Milei, tu as raison. Javier Milei aussi en Argentine, un espèce de guignol, un mec que personne n'écoute vraiment dans le paysage politique, qui raconte des conneries depuis des années. Un espèce de... Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Schwarzy en Californie. Alors, le souvenir que j'en ai, mais arrêtez-moi si j'ai une connerie, mais le souvenir que j'ai de d'Arnold Schwarzenegger quand il est élu gouverneur de la Californie, c'est qu'il a tout fait pour rentrer dans le costume du parfait politicien. Arnold Schwarzenegger n'était pas un clown. Arnold Schwarzenegger, il est rentré dans le système. Il a voulu convenir au système. Il a réussi, il a été élu, etc. C'était pas un rigolo, c'était pas un démago, c'était pas un... Non. Il a mis un costume, il a mis une veste, il a voulu rentrer dans le système, il a voulu être un bon républicain, etc. Donc c'est... Donc ouais, non... Zelensky aussi. Bah, moi, le souvenir que j'ai de la campagne de Zelensky pour être président en Ukraine, c'est qu'il refusait de faire des conférences de presse, il refusait des interviews, il refusait de passer dans les médias. Il ne voulait pas débattre avec les autres candidats. Il refusait les débats à la télévision, etc. Il ne faisait que des lives sur Facebook. Sur son Facebook. Il faisait que des posts sur son Facebook, etc. C'était une campagne essentiellement sur Facebook, sur Instagram aussi, je crois. Et sa campagne était avant tout axée sur l'anticorruption de mémoire. Absolument. Zelensky, c'était le candidat anticorruption. Pour ceux qui n'avaient pas la backstory, Zelensky était l'acteur principal, le premier rôle dans une série humoristique, dont j'ai oublié le nom, qui a cartonné en Ukraine parce qu'elle se moquait et elle dénonçait la corruption. Serviteur du peuple, merci beaucoup de me le rappeler. La série s'appelle Serviteur du peuple. Si vous l'avez jamais vue, allez la regarder. Je crois qu'elle est disponible gratuitement sur Arte. Et c'est une série humoristique qui est assez marrante. Et Zelensky a le premier rôle. Et ça raconte un simple prof, je crois, qui fait le buzz sur Internet en dénonçant la corruption et qui est élu président. Et cette série a cartonné en Ukraine. Et dans la foulée de ce succès, il a vraiment l'acteur... Volodymyr Zelensky a déposé sa candidature à la présidence et il a été élu. Après une campagne très hors système, quoi. c'est un peu comme si Kadmerad, c'est un peu comme si Kadmerad se présentait et qu'il était élu président, quoi. Voilà, Kadmerad, un acteur que tout le monde connaît, que tout le monde aime bien, il est sympa, bienvenue chez les ch'tis, tout ça, bon, voilà. Il a rien à faire, il a rien à voir avec la politique. Baron Noir, ouais, c'est vrai, Baron Noir. Oui, vous avez raison, Baron Noir. Ouais, il a un lien avec la politique quand même, Kadmerad, Baron Noir. Mais tout le monde n'a pas vu Baron Noir. Donc, Emmanuel Macron pourra tout à fait revenir en 2032 avec une candidature en dehors des partis politiques, comme il l'avait déjà fait en 2016. Peut-être qu'Emmanuel Macron nous fera le coup du renouveau. On verra. Il y a quand même de fortes chances qu'il ne quitte pas la vie politique. De ce qu'il a déclaré ce week-end, il n'a pas l'intention de quitter la vie politique. Et de toutes les manières, beaucoup de choses sont possibles dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, ça se démobilise dans le camp du macronisme. Combien de mandats max en France ? Il n'y a pas de limite numérique au nombre de mandats que tu peux faire. Il y a une limite sur le nombre de mandats consécutifs que tu peux faire. C'est pas plus de 2 mandats consécutifs. Mais une fois que tu as fait 2 mandats, tu dois laisser passer un mandat, puis tu peux te représenter à nouveau à l'élection. Et tu dois laisser passer un mandat. C'est ce qu'on appelle le cooldown électif. Ouais, c'est ça. C'est le cooldown. Ou le nombre de mandats concomitants. Alors, il y a aussi des règles qui interdisent le cumul des mandats. Quand tu, en fonction des mandats que tu as, il y a d'autres mandats que tu ne peux pas avoir. Quand tu es parlementaire, donc quand tu es député ou sénateur, tu peux être simple conseiller municipal, départemental ou régional, ça, c'est pas grave. Par contre, tu n'as pas le droit d'avoir une fonction exécutive au niveau local. Donc, tu n'as pas le droit d'être maire ou maire adjoint ou président ou vice-président de conseil départemental ou régional. Ça, c'est interdit. Maire et Premier ministre, c'est OK. Premier ministre, ce n'est pas un mandat. Premier ministre, c'est une fonction. Donc, ce n'est pas un cumul de mandats, le fait d'être maire en plus de Premier ministre. Moi, si on me demande mon avis, personne ne me demande mon avis, mais si on me demande mon avis, je trouve que c'est débile et qu'il faudrait l'interdire aussi. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu par la loi. La loi n'interdit que le cumul de mandats. J'ai assisté à un discours de Houllier la semaine dernière. Oui, ça se démobilise bien dans la Macronie. Bah justement, il y a un article du Monde que je voulais lire avec vous qui parle de cette démobilisation actuellement à l'Assemblée nationale. Ouais. On va lire ça ensemble, on va voir un petit peu ce qu'ils en disent, mais apparemment, dans les rangs de la Macronie, c'est le Delbord. L'impuissance du camp gouvernemental à l'Assemblée, récit d'une désertion collective. Mayotte, énergie, audiovisuel, depuis plusieurs semaines, le bloc central cumule les revers dans un hémicycle au rang de plus en plus clairsemé. Une démobilisation dont les députés rejettent la faute sur le gouvernement. Ah ! Ambiance. Ambiance dans la majorité relative. L'épisode s'est déroulé dans l'après-midi du vendredi 27 juin. Dernier jour de l'examen du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Le Rassemblement national dépose un amendement de suppression d'articles sur le circuit légal de distribution des médicaments sur l'île, adopté à 26 voix contre 20. Quasiment à lui tout seul, 23 voix, le parti d'extrême droite dicte sa loi face au reste de l'hémicycle démobilisé, et le bloc central en particulier, censé défendre le projet de loi. Ah ouais, donc les députés sont même pas là, quoi. Pour défendre les amendements et pour voter contre... Du coup, l'extrême droite peut faire passer des trucs. Eh oui. C'est n'importe quoi, s'offusque le député Renaissance des Hauts-de-Seine, Gabriel Attal, président et seul représentant du groupe Ensemble pour la République, avec Prisca Thévenot ce jour-là. À côté d'eux, les élus MoDem du groupe des Démocrates sont 7 sur 36 pour un seul représentant du groupe Horizon sur 34. Ce n'est pas la responsabilité du Rassemblement national qui est en cause, mais l'absence, notamment, même si je salue le fait que le président Attal soit là, de la majorité du socle commun, déplore le ministre au banc Manuel Valls. Ah bah tu m'étonnes, Manuel Valls, il a enchaîné les revers à cause de la démobilisation des macronistes. La scène est devenue banale ces dernières semaines à l'Assemblée nationale. Un hémicycle clairsemé, un amendement du RN ou une motion de rejet de la gauche, une adoption surprise qui ne l'est plus tant que ça, un bloc central stupéfait mais impuissant, et on recommence. En quelques jours, l'expérience s'est répétée sur la proposition de loi sur l'avenir énergétique de la France, sur le projet de loi sur la refondation de Mayotte ou sur la réforme de l'audiovisuel public. À chaque fois, les 163 sièges du bloc central étaient loin d'être tous occupés. Et élargir au bloc gouvernemental avec 49 députés Les Républicains du groupe Droite Républicaine n'améliore pas vraiment les chiffres, tant ces derniers ont coutume de déserter l'hémicycle. Bah alors, Les Républicains ? eux qui prétendaient être toujours là et faire le boulot et se différencier de la démagogie et du populisme du Rassemblement National en faisant le taf à l'Assemblée, ben dis donc. Et la valeur travail, c'est vrai, ça la valeur travail. Ça déserte. Visiblement, tout le monde se barre. Hein. Selon le site Datan, un outil en ligne qui analyse l'activité parlementaire de l'Assemblée nationale, les groupes RN et la France Insoumise arrivent en tête de la participation des députés au vote sur cette 17e législature, 36 et 31%, suivi des écologistes, des socialistes et du groupe Union des droites pour la République. Les troupes du bloc central n'arrivent qu'en 6e, 7e et 8e place avec, dans l'ordre, Horizon, Les Démocrates et EPR devant le groupe Droite Républicaine. Vache. On a les stats. Bon, je les regarderai hors stream. Mais ok, d'accord. En tout cas, c'est la débandade. Le groupe est clairement démobilisé. Cette démobilisation, fortement pointée du doigt par les élus d'opposition, interroge au sein même du bloc central. Les images d'un hémicycle clairsemé, ça nuit toujours à l'image de l'Assemblée nationale, regrettait la présidente du Palais Bourbon et députée des Yvelines, Yaël Braun-Pivet, devant l'Association des journalistes parlementaires le 3 juillet. C'est vrai que je reçois encore beaucoup moi, de messages de gens qui me disent « Jean, comment ça se fait que les députés sont absents dans l'hémicycle ? Qu'est-ce que c'est que cet absentéisme ? C'est pas censé être leur boulot de voter les députés, pourquoi ils viennent pas voter ?» Et j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que ça s'explique en partie par une forme de démobilisation pour ce qui est du bloc central, mais pour les autres députés, il y a aussi un boulot qui est fait en commission et tout ne se résume pas à l'hémicycle, quoi. Ça a 210 députés, ça branle que dalle, mais ça continue à bien manger, c'est honteux. Non, mais voilà, c'est pour ce genre de message que j'ai besoin de faire de l'explication de texte, parce que c'est un chouïa plus complexe que ça, et ça ne se résume pas à de la fainéantise. Voilà, quand vous voyez un siège vide à l'Assemblée, ça ne veut pas dire que c'est un fainéant. Quelques jours plus tôt, le député MoDem du Finistère, Erwan Balanant, avait lui aussi évoqué le sujet spontanément en conférence de presse du groupe Les Démocrates. La motion de rejet contre le texte sur l'audiovisuel venait d'être votée la veille, le 30 juin, avec seulement une trentaine de députés du bloc central présents pour la rejeter. J'ai l'impression que beaucoup de parlementaires ont oublié que quand on est parlementaire, au-delà de parlementer, on vote les lois, et c'est bien qu'il y ait un peu de présence, avait lancé l'élu. Bah oui, en plus Erwan Balanant, il fait partie de ceux qui bossent. Le jour précédent, justement, ce même élu semblait un peu abattu au sortir du vote dans la salle des quatre colonnes. Il n'était que quatre de son groupe à avoir tenté de rejeter la motion votée. Mais vous savez que le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National vont voter ensemble, vous organisez notre planning autrement, a défendu Erwan Balanant pour justifier la désertion. Le plaidoyer était le même chez Gabriel Attal au micro de France Info le 1er juillet sur le sujet. Je cite, on a beau être 100% de présence, de toute façon, ils ont la majorité à justifier le président du groupe EPR. Il a raison, Gabriel Attal. Il a raison, Gabriel Attal, de rappeler que de toutes les manières, présence ou pas des députés du bloc central dans l'hémicycle, à partir du moment où le NFP et le RN se mettent ensemble, ils ont la majorité, donc de toutes les manières, ils perdent les votes. Un argument vrai mathématiquement, mais un peu trompeur. Pour la proposition de loi sur l'audiovisuel, le RN s'était abstenu en commission et avait annoncé son soutien tacite au texte avant un revirement de dernière minute que personne ne semblait avoir prévu sur la motion de rejet préalable. Lors des examens des textes sur l'avenir énergétique et sur la refondation de Mayotte, le RN était globalement seul à faire passer ses amendements face à la gauche et au bloc central. Pas de raison a priori d'être démobilisé donc, mais l'engrenage de la désertion est déjà enclenché depuis quelques mois. Quand il vous est presque impossible de faire passer des réformes structurelles, que les oppositions s'additionnent, il faut trouver la motivation pour revenir le lundi, souffle Paul Christophe, président du groupe Horizon. Bah oui, en fait, il redit la même chose, c'est qu'il est minoritaire. Là, je suis d'accord effectivement sur le fait que le coup de Trafalgar qu'a fait le Rassemblement National sur le vote sur la loi audiovisuelle publique, la loi de Rachida Dati, ça, c'est vrai que c'est une exception. Parce que là, pour le coup, c'était pas attendu. On pouvait pas savoir que le RN allait voter la motion. Si le RN n'avait pas voté la motion, le Bloc central aurait quand même pu être majoritaire dans l'hémicycle face à la gauche s'il était reparti sur une abstention comme il l'avait fait en commission. Mais sur le reste, je veux dire, à partir du moment où les oppositions sont majoritaires, bon courage, quoi. Et après tout, cette démobilisation a-t-elle des conséquences fâcheuses pour le Bloc central ? Pas vraiment. Les députés savent pertinemment que le Sénat, dont la majorité à droite soutient le gouvernement, saura corriger les écarts indésirables de l'Assemblée nationale. Ou alors la commission mixte paritaire, réunissant 7 députés et 7 sénateurs, s'en chargera. Aujourd'hui, on sait que notre intérêt est d'être robuste en CMP, où l'on peut gagner, alors que c'est plus difficile en hémicycle. Cette perspective n'aide pas toujours à mobiliser en séance, même si chacun sait que cette présence reste essentielle, poursuit Paul Christophe. Et là, on est au cœur de la stratégie qui s'appelle la stratégie du plomb, qui consiste à s'appuyer sur le Sénat pour faire le travail de fond, laisser les sénateurs bosser, éventuellement rééquilibrer en CMP, parce qu'en CMP, il y a une possibilité d'obtenir des majorités, et ensuite réussir à faire adopter le texte en coup de Trafalgar. Et ça permet d'adopter des textes. C'est pas toujours sûr. Il faut quand même que le RN soit d'accord. Ou que la gauche soit d'accord, ce qui peut arriver. Les députés désignent par ailleurs un autre coupable pour expliquer cette désertion, le gouvernement. L'ordre du jour fixé par le ministère des Relations avec le Parlement est jugé trop éparse et confus. On a des textes d'initiative sénatoriale qui nous arrivent comme ça au dernier moment. Les parlementaires sont beaucoup moins impliqués dans leur travail en amont et dans le portage du texte, considère Yaël Braun-Pivet, rappelant que l'opposition est plus mobilisatrice. Oui, alors ça je suis pas d'accord. Je veux dire, à un moment, quand t'es dans la majo, t'es dans la majo jusqu'au bout. Hein. D'autant que les élus du Bloc central reprochent régulièrement au gouvernement de manquer de cap clair dans sa stratégie et de ne pas suffisamment travailler les textes avec eux. Sans véritable programme présidentiel à défendre sur lequel ils auraient été élus, ils se sentent moins liés au gouvernement. J'ajoute un truc. Pardon, hein, mais les députés macronistes, il y en a peut-être un paquet qui pensent que c'est terminé, hein, qui vont pas être réélus, qui de toute façon ils vont pas se représenter. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à venir dans l'hémicycle défendre des lois qui sont pas les tiennes pour un bilan dont, que tu n'auras pas à défendre ? Moi, je serais eux. Je commencerai à lever le pied. Hein. Bon. On n'est pas là pour souffrir. Hein. Ça va, c'est bon, j'ai fini, j'ai fait 10 ans en politique. Ciao, bye bye, quoi. On manque aussi de projets de loi portés par les ministres. Si demain vous avez un PJL sur la justice porté par le garde des Sceaux Gérald Darmanin ou un PJL sur l'immigration de Bruno Retailleau, vous aurez les 136 députés dans l'hémicycle, assure le député du Val-de-Marne Mathieu Lefebvre. Encore faudrait-il peut-être que les lois, que les trois groupes se coordonnent. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, il n'existe aucune réunion d'organisation entre les trois présidents de groupe. Ah ouais, non mais ça, ouais, non mais ça, ça s'appelle la NUPES, ça. Ça s'appelle la NUPES et le NFP. C'est une organisation bizarre. En fait, chacun a son groupe, mais on est quand même censé être ensemble. Alors, on vote globalement de la même manière, mais en fait, on se coordonne pas. Du coup, sur le travail, c'est le bordel. Chacun joue sa partition. Ouais, non, c'est désolé, hein, excusez-nous. Hein. Chacun fait donc ses réunions dans son coin, où la fatigue générale commence à se faire ressentir. Selon plusieurs sources parlementaires, il y règne parfois une ambiance de aquabonisme que les chefs de file tentent de contrer. Bah oui, c'est ce que je vous disais. D'autres se plaignent qu'on leur reproche une liberté d'action à l'Assemblée nationale, là où on critiquait le côté député Playmobil qui vote sans réfléchir durant les années de la majorité absolue. Oh non, c'est les injonctions contradictoires, putain, le marteau, l'enclume. Quand ils votent mécaniquement les textes du gouvernement, on les traite de députés Playmobil qui réfléchissent pas et qui prennent pas d'initiative. Et quand ils prennent des initiatives et qui sont là une fois sur deux, on les accuse d'avoir trop de liberté. Terrible. Pour pallier l'absentéisme de début et de fin de semaine surtout, plusieurs députés appellent à réformer le fonctionnement du Palais Bourbon, et plaident pour un système de 3 semaines pleines en séance à Paris et 1 semaine consacrée uniquement au travail en circonscription, par exemple. Oui, pourquoi pas. De plus en plus d'élus du bloc central préfèrent être sur le terrain. Les sollicitations à des événements, inaugurations et autres réunions y sont plus flatteuses pour l'ego, et repoussent de plusieurs kilomètres le mal-être ressenti dans l'hémicycle. La peur d'une nouvelle dissolution est aussi présente dans beaucoup de têtes. Mardi 8 juillet, Emmanuel Macron retrouvera son pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Une épée de Damoclès qui pousse les parlementaires à multiplier les déplacements en circonscription pour se préparer au pire, au détriment du travail législatif à Paris. Et s'assurer que ces sièges vides de l'hémicycle soient bien toujours le leur dans quelques mois. Malin ! J'y avais pas pensé ! Donc contrairement à ce que je vous ai dit juste avant, en fait, les députés, c'est pas qu'ils sont en train de sentir la fin du sapin. C'est pas, au contraire, ils sont en train d'anticiper la dissolution. Ils sont en train de se dire, mais attends, si ça dissout à l'automne, là, comme l'a très bien anticipé le streamer Jean Massier, moi, je suis marron si je fais pas campagne. Faut que je sois sur le terrain. Donc là, ils disent à leurs collaborateurs parlementaires, donc les cocos, vous me mettez sur le terrain. Hein. Je veux aller aux événements, aux déplacements, rencontrer des élus locaux, serrer des mains, événements associatifs, copropriété, tout ça. Il est l'heure de labourer la circo. Il faut se préparer à repartir en selle. Donc dans les deux cas, ça explique l'absentéisme à Paris. Heureusement qu'ils écoulent Jean Massier. Ouais, enfin, une fois sur deux, quoi. Pourquoi en automne et pas cet été? Tu peux pas raisonnablement organiser des élections législatives en plein été. Les Français sont pas chez eux. Tu peux pas appeler aux urnes les électeurs en plein été. Donc s'il y a une dissolution, ce sera probablement après une motion de censure qui sera éventuellement adoptée au moment de l'examen du budget l'automne prochain. Novembre. Octobre-novembre. S'il y avait une dissolution, est-ce que la gauche tenterait la NUPES 3, à ton avis? C'est une question que je vous pose. S'il y avait une dissolution, est-ce que les partis de gauche referaient une alliance sans... S'il n'y a pas de vote de la proportionnelle? Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que le PS et LFI sont obligés de se mettre d'accord pour former une alliance électorale pour des élections législatives au scrutin majoritaire par circonscription. Sinon, c'est la garantie de se retrouver dans l'opposition à Jordan Bardella. Tu penses que certains PS comme Gedge préféraient faire route seul? Oui, mais la circonscription de Gedge, elle est pas en danger. Je pense pas. Donc je pense que le PS réinvestira ses barons locaux, y compris les opposants. Si c'est dans des circonscriptions qui sont fléchées pour le PS, y a pas de raison, tu vois. Je ne voterai jamais plus pour un candidat PS. Je sais pas dans quelle circonscription t'habites, mais je sais pas ce que t'auras au second tour face au RN, quoi. LFI enverrait des candidats là-bas. En principe, non. Si c'est une candidature fléchée et qu'il y a un accord électoral, tu présentes pas de candidat dans les circonscriptions qui sont pas fléchées sur ton parti. Après, il y a des exceptions, ça arrive. On l'a déjà vu dans le 20e arrondissement à Paris, on l'a déjà vu en Essonne, chez Gedge d'ailleurs, je crois qu'il avait un candidat insoumis face à lui. Qu'il était candidat face à un candidat insoumis, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'elle ait fait mettre des gens face à des circonscriptions fléchées PS. Bah, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est marginal. Je veux dire, ça reste globalement marginal. Puis après, ça dépend des circos. C'est toujours pareil. Si c'est une circo qui est largement à gauche depuis toujours, il y a quand même assez peu de chances de se retrouver éliminé au second tour. C'est pas une circonscription qui va échouer entre les mains de la droite ou du RN. Mais ça, ce n'est valable que dans les circonscriptions les plus à gauche. Où à chaque fois, t'as un second tour gauche contre gauche. Bon, à ce moment-là, c'est pas très grave d'avoir gauche contre gauche. Donc c'est pour ça qu'un candidat dissident dans une circonscription, c'est pas toujours très grave. Gedge s'était présenté contre le NFP. Bah voilà, bah Gedge, il a gagné à la régulière alors. Donc c'est normal qu'il se représente pas avec l'étiquette du NFP. C'est lui qui est parti tout seul face à un candidat NFP. Ok, d'accord. Donc bon, bah, dans la circonscription de Gedge, il a gagné à la régulière, y compris contre le NFP. Du coup, à la prochaine élection, il se représentera à sa propre succession et le NFP présentera peut-être un candidat face à lui. Le PS n'est pas en train d'imploser de toute manière ? Non, le PS n'est pas en train d'imploser. Pourquoi il serait en train d'imploser, le PS ? Au contraire, ils viennent de finir leur congrès. Ils ont une ligne claire derrière Olivier Faure. Et on sait qu'Olivier Faure est plutôt favorable, a priori, à une politique unioniste à gauche. Donc, bon. Vous savez, la scission du PS, c'est un truc qui est promis tous les ans depuis 70 ans. Hein. PS, il a des hauts, il a des bas, il a des périodes fastes et des périodes où c'est plus compliqué, mais au final... LFI, c'est pas une scission du PS ? Non. Non, bah non. Quand Jean-Luc Mélenchon s'est barré du PS en 2008, il est parti tout seul. Hein. Il a traversé le désert, il a créé son propre parti de son côté. Il est pas parti avec toute une motion du PS derrière lui. Une scission, c'est un truc collectif, hein. Le PS a survécu à 93, il a vu pire. Je suis d'accord avec ton analyse, je suis d'accord avec toi. Gardez en tête que le PS a survécu à 1993. Hop. Pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà, ça, c'est l'Assemblée de 1993. Ce qu'on a appelé la vague bleue. La droite triomphante, mais comme Jaja. Mais vraiment comme Jaja. On était au sommet de la gloire de la droite. En bleu foncé, vous avez le RPR. En bleu clair, vous avez l'UDF. Donc l'UDF, c'est les Giscardiens. En bleu foncé, c'était les Chiraciens. Les Chiraciens et les Baladuriens. Enfin, c'était surtout les Baladuriens, en réalité. Et le PS, qui était auparavant hégémonique et qui se retrouve écrasé avec un tout petit nombre de députés. Rouge, c'est communiste. Ouais, rouge, c'est communiste. Zéro FN en 93. Je me souviens plus si le FN a eu des... Il y a eu deux non-inscrits. Il y avait deux non-inscrits. Il y avait peut-être un RN dans le tas, je sais pas. Non, j'en vois pas. Fabius, c'était le PS? On en apprend tous les jours. Tu savais pas que Laurent Fabius, c'était le PS? Ah ouais? Ah bah Laurent Fabius, c'est plus que le PS, c'est l'histoire du PS. Avec plusieurs moments, plusieurs époques, Premier ministre, leader de la gauche du parti, avec Jean-Luc. Avec Jean-Luc. Moi, je me souviens, les premiers meetings que je regardais du PS, c'était les meetings de Jean-Luc et Fabius pour le non au traité constitutionnel européen en 2005. Avec Henri Emmanuelli et tout. Puis après, ministre des Affaires étrangères, président, il a été président de l'Assemblée nationale aussi, Fabius. Président du Conseil constitutionnel. Ah non, un très très grand, très très grand monsieur du PS. Hein. Fabius était contre le traité de 2005. Ouais, pardon, ça me fait marrer, mais si vous saviez pas, les leaders, les grands leaders du non au traité constitutionnel européen en 2005 s'appelaient Laurent Fabius, Henri Emmanuelli, Jean-Luc Mélenchon, Jérôme Guedj, et puis de l'autre côté, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, Philippe de Villiers. Ah ouais, non, 2005, c'était une ambiance. Hein. Manuel Valls, malheureusement, côté PS. Non, Valls, il n'était pas pour le... Il n'était pas pour le non au traité constitutionnel, Valls, en 2005. Il était Valls, il a toujours été deuxième gauche, néo-rocardien. Bon, il peut pas être pour le non au traité constitutionnel. Je pense qu'il était pour le oui à Maastricht et le oui au TCE. Montebourg, t'as raison, il y avait Montebourg. Il y avait le club des jeunes. Le club des jeunes au PS. Il y avait Montebourg, il y avait Valls, il y avait Vincent Payon. Ouais, je m'en souviens. Benoît Hamon aussi. Ouais. The yes needs the win. Win needs the no to win against the no. Ouais, c'était Jean-Pierre Raffarin. L'incroyable, l'inénarrable Jean-Pierre Raffarin. Qui était le leader de la campagne du oui. C'était poussif, hein, la campagne du oui. Hein. Il y avait DSK aussi qui était un leader du oui au PS. DSK, Hollande. Aubry, j'ai un doute. Royal. Glavany. Ça, c'était pour le oui au PS. Valls, évidemment. Bartolone, ouais, Barto. Le parrain du 9-3. Est-ce que Royal va tenter un retour? Ce serait drôle. Je pense pas que Ségolène Royal va tenter un retour. Elle laisse toujours entendre qu'elle pourrait être en candidate parce que ça lui permet d'être testée dans les sondages sur les personnalités politiques préférées des Français. Mais j'y crois pas. Bertrand Delanoë, Gérard Collomb, Harlem Désir. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que Taubira peut ressurgir? Pour 2027, j'y crois pas trop. Non, je pense que la dernière élection présidentielle lui a pas laissé un bon souvenir, donc j'ai du mal à imaginer qu'elle tente de revenir. Elle sera peut-être candidate à la primaire, s'il y a une primaire. Taubira, elle a l'âge de Jean-Luc. Ah, ça commence à dater un peu. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Hein. J'ai un peu de mal à l'imaginer. Est-ce qu'on est foutu pour 2027? Non! on pourra toujours voter Gabriel Attal au second tour face à Jordan Bardella. Et puis après, peut-être que la gauche pourra gagner les élections législatives avec une majorité relative un peu plus solide que ce qu'elle a aujourd'hui. Et puis c'est reparti pour un tour, hein. Jean qui décide de péter le moral à son chat. Mais non, mais vous voulez que je vous dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous brosse dans le sens du poil? Que je vous dise que des trucs que vous avez envie d'entendre? C'est ce genre de chaîne que vous voulez? Non, je suis désolé. On verra. Non, non. Ah bah non, bah non, bah non, c'est pas ça que vous aurez. C'est pas assez. Sur cette chaîne, on joue pas à ce jeu-là. Je suis désolé. Dis-nous que le climat va bien. Ouais, ouais, c'est ça. Dis-nous que le climat va bien, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Merci Bleach pour ton sub. Merci Sarah. Kouklat. Kulkat, pardon. Phoenix. Julie Agitation. Soleil. Les Bubules. Iruzen. Zetoz. Liro. Merci à vous pour vos abonnements. Jean Massier, c'est l'inverse du militantisme. N'hésitez pas à aller militer si c'est votre truc, hein, je vous en prie. Moi, j'ai déjà donné, hein, c'est bon, j'ai fait. À propos de météo, il ferait plus frais aujourd'hui. Oui, non, mais je vous ai dit, on a fini la canicule, on est passé... c'est fini la mode de la canicule. Tout le monde est militant. Je reconnais les anciens JS. J'ai jamais été JS. Mais non, mais moi j'étais militant franc-tireur. J'étais dans mon coin tout seul. J'étais militant sur Twitter. Vous connaissez les militants Twitter? Ceux qui ont des petits logos dans leur tweet name là. Qui sont dans le virtuous signaling toute la journée. Bah, moi j'étais comme eux. Je harcelais des gens avec qui j'étais pas d'accord politiquement. Je faisais des campagnes de dénigrement absolument toute la journée. Ouais, non, j'étais un vrai militant d'Internet. Hein. J'ai participé à dégoûter des gens de voter à gauche. J'en suis absolument convaincu que... Il y avait des gens indécis, à mon avis, qui sont tombés sur mes tweets, qui se sont dit « Ah putain, si c'est ça la gauche ?» Alors, ce sera sans moi. Merci. Voilà. Ça, je suis sûr que j'ai provoqué cet effet-là. Un gros con en somme. Ouais, c'est ça, un gros con. Non, mais un gros con. Bah, c'est pas un gros con, un militant sur Twitter, quoi. Voilà, comme tous les militants. Voilà. J'étais. J'étais péremptoire, j'étais définitif. J'étais plus à gauche que toi. Qui que tu sois. Hein. Je te connais pas, mais je te méprise du haut de. du haut de mes lectures, parce que j'ai des lectures. Relire Bourdieu, hein. Relire Bourdieu, hein. CQFD, c'est ça. Non, c'était... Ouais. Tu méprises pas par le haut, mais par la gauche. Oui, voilà, c'est ça, c'était du mépris par la gauche. C'est ça, exactement. Donc, ouais, non, j'ai fait ça pendant un temps sur Twitter. Comment t'es venu le moment où tu t'es dit je fais peut-être de la merde? Je sais plus, je suis passé à autre chose. Je crois que je me suis rendu compte que ça allait nulle part et que ça ne menait à rien et surtout, c'était inefficace. Vraiment. Ça marche pas, ça sert à rien. C'est de l'auto-validation de groupe qui se regarde le nombril et se parle à lui-même. C'est les fameux comptes Twitter de gauche qui sont suivis par d'autres comptes Twitter de gauche et qui leur disent des trucs de gauche toute la journée pour dire qu'ils ont bien raison d'être de gauche. Et puis il y a un moment, il y en a un qui dit « Mais en fait, on est un peu entre nous, non? Vous trouvez pas ?» C'est parce que, enfin, je veux dire, on est déjà un peu convaincus par le message, non? Parce que là, on se prêche entre nous, mais on va pas très loin, là. Et là, il se prend un shitstorm. Oui, évidemment. Le titre m'a trigger, comment ça va? J'ai mis quoi comme titre? J'ai mis Macron 2032, c'est ça? Ouais. Bon, on en a déjà parlé, hein. On en est venu à la conclusion que Emmanuel Macron va sûrement être candidat en 2032. Et qu'il faudra voter pour lui au second tour pour faire barrage à Jordan Bardella, qui cherchera à faire un deuxième mandat. On en était là. Sauf surprise. Sauf surprise. Et après, on a fait une longue digression pour expliquer à quel point les surprises sont fréquentes en politique. Attention, on peut être surpris. Attention, on peut être surpris. Tout n'est pas écrit. Grâce à Ponce, ouais. T'es bon en pronostic ou on peut encore espérer un truc moins puant? Mais on peut espérer beaucoup de choses, c'est pas une question. De... Vous savez, un pronostic, ça sert pas à espérer, hein. Pronostic, ça sert à se dire, bon, rationnellement, raisonnablement, compte tenu de ce que je sais, de ce que je vois, de ce que je pressens, etc., qu'est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer comme situation qui peut se présenter? C'est pas la même chose de quelle est la situation que j'espère. L'espoir, c'est quelque chose qui vient après, ou différemment. C'est pour ça que je vous dis que sur cette chaîne, j'essaye pas de vous donner espoir ou de vous faire bader. Hein. Je m'en fous, en fait. C'est pas mon rôle. Il y a d'autres gens dont c'est le rôle sur Internet. Moi, j'essaye de faire de l'analyse, j'essaye de regarder, de suivre l'actualité avec vous, de lire des articles, d'essayer d'être surpris, d'essayer de... Je sais pas. L'espoir, c'est le premier pas vers la déception. Putain, t'es badant, toi, un peu. Si on veut espérer, il faut plutôt se demander c'est quoi le plan pour gagner. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour essayer de faire en sorte que ça se passe dans la bonne direction? Ça, effectivement, ça permet d'espérer. Heureusement, d'ailleurs. Vous pouvez commencer par vous abonner à Jean Massier. Ça, c'est toujours un bon réflexe, hein, de s'abonner à ma chaîne, mais... Ça peut permettre de raccrocher un peu à l'actualité politique et de commencer à la suivre et tout, hein. Soutenez Baxit. Vous pouvez soutenir Baxit, point d'exclamation Baxit dans le chat, pour faire partie des gens qui permettent et qui rendent possible l'émission Baxit grâce à un soutien mensuel. Pensez à mettre à jour votre carte bleue. Je refuse catégoriquement de m'abonner à qui que ce soit. Merci Salamèche, tu es abonné à ma chaîne depuis 46 mois. Merci beaucoup. Des réunions publiques par quartier ou par commune, je pense que c'est une super idée pour échanger avec des gens qui ne suivent pas forcément la politique. Ouais, c'est très bien. Merci Andromède. Merci Mister Yanoche. Tu penses quoi de Villepin? On en a déjà parlé la semaine dernière de Villepin, mais moi je suis. Je trouve que Dominique de Villepin est la preuve vivante que l'on peut changer de réputation au cours de sa vie politique. Je rappelais aux personnes qui n'ont pas connu les années 2000 en politique, moi j'ai connu. ça a été ma phase de politisation, c'était ces années-là. Et dans ma phase de politisation, vous savez, quand on se politise, on apprend à aimer des gens, puis on apprend à détester d'autres gens. C'est important pour se repérer dans le paysage politique, on apprend qui on aime bien, qui on déteste, etc. Moi, Dominique de Villepin, c'est un homme que j'ai appris à détester. Pour moi, Dominique de Villepin, c'était l'archétype du pire de ce qu'on peut faire en politique française. C'était le plus mauvais homme politique de l'histoire de France. C'était pas possible d'imaginer pire, etc. Machin. Et on était plusieurs millions à penser ça à l'époque. Bon, et 20 ans plus tard, Dominique de Villepin, il revient avec un discours qui plaît à la gauche sur les questions internationales. Et il est invité à la fête de l'UMA, et voilà. Bon, bah, intéressant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je trouve ça intéressant. C'est bien la preuve que c'est comme Jacques Chirac, où il y a une espèce de nostalgie de Jacques Chirac. Voilà, là, on l'aime bien, Jacques Chirac, etc. Bon, voilà. Jospin, tu vois, Jospin, il est adoré à gauche. On trouve que Jospin, c'est génial. Jospin a laissé un super bon souvenir. Jospin, c'était l'union de la gauche et tout. Putain, les années Jospin, c'était dur. Hein. Jospin, il était responsable de tout. Tout se passait mal à cause de lui. Il a porté sur son nom la défaite en 2002. Voilà. Donc, c'est pour ça que Dominique de Villepin, moi, me donne espoir en Emmanuel Macron pour les années 2045. 2045, Macron, quand il fera son retour, ce sera à la fête de l'UMA, il sera accueilli partout, on l'écoutera, et toi, c'est intéressant ce qu'il a à dire, ouais, c'est pas mal, et tout, bon, voilà. Voilà. Ça se trouve, quand je vois ce qui est en train de se passer avec Villepin, je ne vois pas pourquoi ça se passerait pas comme ça pour Macron. On se souviendra des JO. Non, mais voilà, c'est ça. On se souviendra des JO. Et Notre-Dame, je vous ai parlé de Notre-Dame. Au fait, Notre-Dame, vous savez que Notre-Dame a été reconstruite en 5 ans. Voilà, bah voilà, on se souviendra de ça. Ah ouais, quand même, les JO, c'était bien. Ah ouais, c'était bien. C'était les années Chirac. C'était les années Macron. Macron à la fête de l'humain en 2032. Non, 2032 sera trop tôt. Mais dans 20 ans. Faut compter 20 ans. Dominique de Villepin, ça lui a pris 20 ans. Donc moi, je te dis 2045. Macron à la fête de l'humain. Pourquoi il y a tout le temps une nostalgie des anciens politiques ? Parce qu'il y a une nostalgie du temps, une nostalgie de l'époque, de la période, plus que de la personne incarne. Une douceur, un truc comme ça, je sais pas, c'est une bonne question. Les gens sont des poissons rouges. Ben non, mais après les gens changent, les gens évoluent. Regarde, moi, par exemple, tu m'aurais demandé en 2005, est-ce que Dominique de Villepin, t'as envie de l'interviewer ? Je t'aurais répondu plutôt crevé. T'es mort, hors de question, etc. Bon, bah voilà, 20 ans plus tard, j'ai envie de le recevoir dans Backseat, Dominique de Villepin. Ça m'intéresse. Et premier degré, je suis curieux. J'ai vraiment des questions à lui poser, ça m'intéresse. J'imagine pas l'état du monde pour être nostalgique de Macron. Ah bah on verra, bah je te dis, quand on sera au deuxième quinquennat de Bardella, avec Marion Maréchal, Premier ministre, peut-être qu'on regardera les choses avec du relief. Toi pour Villepin, moi pour Juppé. Non mais voilà, alors il y en a, non mais t'as parfaitement raison. Il y en a pour qui c'était Alain Juppé. Le pire du pire de tous les hommes politiques qu'on puisse imaginer à la surface de la planète, Alain Juppé en 1995. Pareil. Des années plus tard, Alain Juppé, il est respecté, il est écouté, il est au Conseil constitutionnel. Pareil avec Hollande, en fait. Bah, on verra. Hollande, c'est encore un peu tôt, parce que à gauche, en tout cas, il y a encore beaucoup de gens qui n'aiment pas François Hollande, qui ont eu en travers de la gorge la loi travail, notamment, la déchéance de nationalité et tout. Donc de là à ce que, y ait une nostalgie qui s'installe sur les années Hollande chez ces personnes-là, j'y crois pas trop. Après, il y a beaucoup de gens qui sont politisés contre Hollande aussi. Quand tu découvres la politique et que tu te politises à gauche pendant les années Hollande, forcément, tu fais pas de François Hollande quelqu'un que tu soutiens. Donc, j'ai déjà la nostalgie de Castex. Ah ouais, les années Castex, putain, c'était bien. Ah ouais, je me souviens. Tout le monde était plus détendu, tout le monde était plus calme. Ouais. Non, non, mais je vois très bien. Donc non, mais ça peut, je sais pas, moi je trouve ça surprenant, la nostalgie qui se dégage de personnalités politiques comme ça. On en vient à les regretter, on en vient à se dire que c'était un bon souvenir, c'était quand même mieux. Écoutez par qui, vous êtes juste devenus des centristes, j'adore cette façon de calquer sa propre progression sur l'opinion. Excuse-nous, excuse-nous, tu nous surplombes par la gauche, tu nous surplombes. Désolé. La nostalgie de Valls. À gauche, pareil, à gauche de Manuel Valls, ça reste compliqué, quoi. Donc on verra si ça change un jour. Après Bayrou, on est vraiment dans les abysses de ce qui se fait comme haut responsable politique. Tu dis ça parce que t'as pas connu 2007. Si t'avais connu 2007, tu dirais pas ça. 2007, Bayrou, il y avait une hype derrière lui qui était assez impressionnante, hein. Il a fait un bon score, il a fait 18, 19% à la présidentielle. Je me souviens plus son score exact, mais il avait fait un bon score, hein. Il était aux portes du second tour. Et il a refusé d'appeler à voter Nicolas Sarkozy. Ce qui a définitivement enterré les liens entre le MoDem et, enfin l'UDF, mais le MoDem plus tard, et l'UMP. Mes parents ont voté pour lui en 2007. Ouais. Il y a une différence entre le Bayrou de 2007 et celui de 2025, il a évolué aussi. Oui, peut-être que le bonhomme a évolué, mais il faut aussi remarquer que la période n'est pas la même. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un challenger, aujourd'hui, c'est un defender. Ça te crée une dynamique qui est quand même un petit peu différente entre les deux. L'article qu'on a lu tout à l'heure nous montre bien qu'il y a une débandade dans les bancs de la majorité. Personne ne l'écoute, personne ne suit le gouvernement. Le gouvernement se prend tôle sur tôle dès lors que le RN se met avec le NFP à voter des trucs. Forcément, la période n'est pas simple. Bon, après, il a planté lui-même le conclave. Et à mon avis, il va planter son propre budget lui-même comme un grand l'automne prochain. On verra. Je me souviens quand j'étais petit, mon oncle qui disait: il n'y a que Bayrou qui est sincère chez les politiciens. Ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Il y avait vraiment une hype, hein, Bayrou, dans ces années-là. Quel intérêt pour Macron d'avoir mis Bayrou Premier ministre pour ça alors? Mais faute de mieux, en fait. Faute de mieux. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Emmanuel Macron? Il a que 220 députés. Et encore, en incluant les Républicains. en incluant les Républicains, il a 220 députés. Donc, je veux dire, à partir du moment où le RN se met avec le NFP, il n'y a plus rien qui passe à l'Assemblée. Donc, quel que soit le gouvernement que tu as, c'est difficile de faire passer des lois. Même Rachida Dati n'y arrive pas. En même temps, Rachida Dati, elle est soutenue par personne et elle se met dans la merde toute seule. Pour moi, Bayrou en 2007, c'est comme Mélenchon, toujours là, mais jamais au second tour. On verra, c'est pas encore terminé ni pour l'un ni pour l'autre. Sacré comeback des années Sarko, Dati aussi. Ouais, c'est impressionnant d'avoir déterré Rachida Dati pour la mettre au gouvernement. C'est assez spectaculaire, ouais. Mélenchon 2027, j'espère qu'il va pas faire le coup. Mélenchon 2027, bah, il aurait tort de se priver. Alors, il est possible, je le disais tout à l'heure, il est possible que Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas et qu'il préfère envoyer quelqu'un et se faire remplacer parce qu'il est trop vieux. Ça peut arriver. Il est possible aussi que Jean-Luc Mélenchon se présente et il aurait tort de se priver parce que c'est celui qui fait le meilleur score pour la France Insoumise. La France Insoumise fait des bons scores aux élections présidentielles. C'est à peu près les seules élections auxquelles ils font des bons scores. Et les élections législatives, ils ont besoin de se mettre avec le PS pour réussir à avoir beaucoup de députés. Donc c'est pas idéal comme situation. Donc la présidentielle reste un moment qui permet d'ancrer le parti de manière assez forte, d'autant que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est quand même assez bien connue de la part des électeurs, et appréciée par ailleurs. Je vous parle des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Je sais bien que Jean-Luc Mélenchon, il est détesté par d'autres électeurs, y compris par des indécis qui pourraient être susceptibles de voter pour lui, mais qui ne l'aiment pas. Est-ce que c'est LFI qui fait des bons scores ou JLM? C'est JLM qui fait des bons scores. C'est Mélenchon qui fait des bons scores, qui le qualifie presque au second tour de l'élection présidentielle à deux reprises. Le PS a aussi besoin d'LFI pour les législatives, ça marche dans les deux sens. Absolument, tout à fait. C'est le principe d'un accord de coalition entre deux partis politiques pour des élections législatives, ils ont besoin l'un de l'autre. JLM éternel 3e, mais en 2027, il a ses chances. Bien sûr qu'il a ses chances, Jean-Luc Mélenchon, en 2027. Je vois pas pourquoi il les aurait pas. Je vois pas pourquoi il l'aurait pas. Je vois pas quel élément. J'ai du mal à quantifier le rejet de la personne de Jean-Luc Mélenchon à gauche parmi ses électeurs. Je veux dire, qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des reproches à lui faire à gauche, il y en a beaucoup. Mais est-ce que ces gens sont nombreux parmi les électeurs? J'en suis pas sûr. Jean-Luc Mélenchon, il a pour lui de faire des bons scores à l'élection présidentielle. Ça veut dire que sur son nom à lui, il arrive à faire un bon score. Je suis pas tout à fait d'accord. Beaucoup de sympathisants LFI ne votent pas spécialement pour Mélenchon, mais pour les idées qu'il défend aussi. Perso, je me suis rapproché d'LFI malgré Mélenchon et pas pour lui. Oui, mais là, tu parles des électeurs les plus mobilisés. Tu parles toi-même des sympathisants. Moi, je te parle pas des sympathisants, je te parle du commun des mortels, des électeurs lambda qui identifient Jean-Luc Mélenchon. Mais d'ailleurs, les militants insoumis le disent eux-mêmes. Quand vous faites un tract sur lequel il y a la tête de Jean-Luc Mélenchon, les gens, ils prennent le tract. Quand vous faites un tract sur lequel il y a juste écrit LFI, les gens, ils savent pas ce que c'est, ils prennent pas le tract. Il y a besoin de mettre la tête de Jean-Luc Mélenchon pour que la plupart des sympathisants, etc. Quand tu fais du porte-à-porte, quand tu es un militant LFI, tu frappes à la porte et tu dis « c'est la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon ». C'est ça ce qu'ils disent les militants. Parce que si tu dis pas Jean-Luc Mélenchon, les gens ils vont pas ouvrir la porte. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est valable pour d'autres partis, évidemment. Hein. Mais c'est particulièrement vrai pour un parti très ancré sur l'élection présidentielle comme la France Insoumise. La politique, c'est la télévision au premier ordre. Il faut jamais oublier que c'est la télévision le premier média politique en France. Et de très très loin. LFI est un jeune parti. C'est normal de manquer de visibilité. Oui, par ailleurs, la France Insoumise est un parti relativement jeune et c'est un parti qui est encore en train d'essayer de s'ancrer localement. Mais pour l'instant, les partis les mieux ancrés localement, ça reste les partis traditionnels qui réussissent le mieux. Ça peut changer, hein, les choses peuvent évoluer. Bien sûr que LFI peut remporter des succès électoraux, par exemple l'année prochaine aux élections municipales. Moi, ce qui me choque, c'est la vague verte qui n'a pas réussi à s'installer. C'est-à-dire à s'installer parce que la vague. Qu'est-ce qui te fait dire que la vague verte de 2020 n'est pas installée aux élections, puisque les élections auront lieu l'année prochaine? On verra l'année prochaine. Si les écolos réussissent à nouveau à faire des bons scores dans les grandes villes, par exemple. Est-ce que c'est aussi la raison de la défiance entre LFI et Place Publique, deux jeunes partis avec des forts leaders? Non, c'est des partis très différents, LFI et Place Publique, qui défendent pas du tout la même chose. Place Publique, c'est un parti qui s'ancre dans le centre-gauche, dans la deuxième gauche, l'eurocardisme, l'Europe, la social-démocratie allemande, etc. La France Insoumise, c'est un parti d'opposition qui prône une rupture, qui est beaucoup plus ancré dans le populisme. Donc non. C'est des partis qui sont radicalement différents, tout simplement. Mais c'est pas lié au fait que ce soit deux partis avec des leaders charismatiques, quoi. Raphaël Glucksmann, c'est un fort leader. Bah pour son parti, oui. Je parle pas pour toi. Les européennes de 2024, c'est 5,5% pour ELV. Il faut voir avec la dynamique que Tondelier fort essaye d'instaurer. C'est vrai que les écolos ont fait une mauvaise campagne européenne et ils ont réussi à se rattraper pendant les élections législatives avec la personnalité de Marine Tondelier qui a assez bien imprimé. Mais c'est vrai que la campagne de Marine Toussaint a été complexe. C'est quoi le rocardisme exactement? Michel Rocard, il était Premier ministre à partir de 1988 et il a incarné ce qu'on appelle la deuxième gauche, c'est-à-dire une gauche qui s'ancre dans le néolibéralisme européen à partir des années 80 et qui essaye de créer une politique redistributrice, mais en assumant de créer des richesses. Et en jouant avec les règles du jeu du marché, quoi. Et donc c'est la deuxième gauche, l'eurocardisme, c'est en gros la droite du Parti Socialiste, c'est-à-dire que tu le retrouveras plus tard avec Dominique Strauss-Kahn, qui était le ministre de l'économie et des finances de Lionel Jospin. Tu le retrouveras avec Manuel Valls. Tu le retrouveras avec Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui se revendiquait de la deuxième gauche encore en 2015. Après, il a pris le large. Donc voilà. C'est une gauche que tu retrouves chez Tony Blair, par exemple, au Royaume-Uni. C'est une gauche que tu retrouves chez Gerhard Schröder en Allemagne. Chez Barack Obama aux États-Unis. Et tu la retrouves aussi avec Manuel Valls, avec François Hollande, qui se revendiquait de la social-démocratie en 2016, si je me souviens bien. Pour rappel, Glucksmann a soutenu Sarkozy en 2007, il n'est pas de gauche. Bon, c'est arrivé à d'autres personnes, à la France insoumise, hein, de soutenir Sarkozy en 2007. C'est pas grave, hein, c'est comme quoi. On peut faire des erreurs de parcours. Une gauche qui essaie de trouver un moyen de financer ses politiques. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment important de savoir si tu étais de gauche il y a 18 ans, non. Il y a des gens pour qui ça compte. Il y a des gens qui s'en foutent, mais il y a des gens pour qui ça compte de vérifier qu'une personne a toujours été à gauche, parce que si tu n'as pas toujours été à gauche dans ta vie, alors tu ne seras jamais de gauche de ta vie. Voilà. Il y a des gens pour qui c'est le cas. D'autres qui s'en foutent, effectivement, et qui pensent qu'on peut avoir des parcours. C'est le cas de Sophia Chikirou, c'est le cas d'Antoine Léaumont, c'est le cas de plein de gens. Y a un moment où les valeurs rentrent en compte quand même. Ah, mais tu peux changer de valeur. Enfin, je suppose que tu peux changer de valeur au cours de ta vie, que tu peux évoluer. J'émets le souhait que les personnes, que des personnes qui votent au Rassemblement national ne le feront pas toute leur vie. J'émets le vœu qu'elles changent d'avis à un moment ou à un autre. Je pense. C'est pour ça que je lâche pas le débat avec mon pote d'enfance qui a fini zémoriste. Ça, c'est une autre question, hein. Faut-il rompre les relations avec les personnes qui ont viré à l'extrême droite? C'est pas une question facile. Je suis moi-même concerné par le problème parmi mes proches. J'ai pas de leçons à donner. D'une manière générale, j'ai pas beaucoup de leçons à donner, vous l'aurez remarqué. Et en particulier sur des sujets délicats comme ça. C'est tellement dur. Bah oui, non, mais voilà, c'est ça. Je souhaite bon courage et je suis personne pour donner des conseils dans le domaine. J'en sais rien, je galère comme vous. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je galère exactement comme vous. J'en sais rien. Mais sur les électeurs, il y a des erreurs de jeunesse. Il y a des personnes qui ont voté des trucs et qui le regrettent plus tard. Il y a des personnes qui ont cru dur comme fer à une certaine chose pendant une partie de leur vie et qui plus tard dans leur vie changent, évoluent. Et il ne s'agit pas d'avoir des regrets ou des remords ou je sais pas quoi, mais en fait, je défends l'idée qu'on a le droit de changer, en fait. J'ai voté Macron en 2017, j'étais jeune et je regrette. Bah non, faut pas que tu regrettes, il faut que tu analyses. Il faut que tu dises comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé en 2017 et que tu te replaces dans un contexte qui était particulier. Il y avait une hype autour d'Emmanuel Macron qui était non négligeable. Il y avait une envie de voter pour lui, il y avait une tentation, il y avait quelque chose. Enfin voilà, c'est. T'as été pris dans une campagne présidentielle à un moment particulier. T'as été séduit par certains arguments qui t'ont parlé. Tu n'étais pas débile, tu n'étais pas influençable plus qu'un autre. Au même âge et au même moment. Voilà, c'est pas. Faut pas avoir de regrets. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir à la fin du deuxième quinquennat de Jean-Luc Mélenchon. On verra l'ambiance dans le chat. Ouais, bon. Non, mais c'est globalement positif. Il faut s'accrocher à l'idée que c'est globalement positif, ce qu'on a fait. Après, bon, si on rentre... Voilà, forcément, il y a eu... Bon, il peut y avoir des erreurs, il y a peu... Pardon, mais bref, voilà, après... Non, mais on n'a pas été servi par la conjoncture. On n'a pas été servi par la conjoncture. Voilà, moi, c'est tout ce que je tiens à dire. C'est la faute à la crise. Ouais, ouais, en plus, le Covid est revenu. Et pas d'argent dans les caisses. De toute façon, c'est la faute à Macron. C'est la faute à Macron parce que c'est à cause de lui qu'il a tout détérioré quand il était au pouvoir. Voilà, donc c'est... Ah ! Chat perché. Sois pas si défaitiste. Je suis pas défaitiste. Tout ce que je vous dis, c'est que j'ai de la bouteille. J'en ai vu d'autres. Voilà. Quand t'es dans l'opposition, tu veux aller au pouvoir, t'es prêt à te bercer d'illusions, tu secoues bien fort des drapeaux, puis après il y a le pouvoir, il y a son exercice, sa dure réalité, son impopularité, et puis à la fin, tu comptes les couleuvres que t'as avalées, quoi. Bon. C'est pas nouveau, c'est éternel, c'est loin d'être nouveau. T'as l'air de dire que tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas. Tout ce que je dis, c'est que les partisans et les militants d'un président à la fin de son quinquennat tirent tous un peu plus la tronche qu'au début de son quinquennat. Voilà. C'est tout ce que je dis. C'est que l'exercice du pouvoir impose des difficultés auxquelles on fait face, des impopularités, des scandales, des trucs qui te barrent la route, qui sont complexes à gérer, qui laissent des traces, qui font souffrir, etc. Et quand t'arrives à la fin du quinquennat, t'es un peu moins bercé d'illusions qu'à la campagne d'avant où on était tout feu tout flamme et ouh, on va gagner, tout ça va être génial. Non mais ça va être génial, ça fou. Le soleil va se lever et les hirondelles vont revenir au printemps. Et puis en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Il faut mettre en place une stratégie de retour des hirondelles. Il faut un plan pluriannuel qui soit financé, qui soit raisonnable et qu'on puisse réussir à faire adopter dans des conditions difficiles, dans une assemblée divisée, etc. C'est l'exercice du pouvoir, quoi. Il faut un conclave. L'exercice du pouvoir t'oblige à faire des compromis ou alors t'es un dictateur. Oui, en partie, t'as un devoir de trouver des compromis, de faire des compromis acceptables, qui sont même souhaitables, c'est une question de point de vue, mais tu peux pas imposer, puis je veux dire, il y a toujours l'opinion publique. Hein. Il y a des manifestations, c'est compliqué d'imposer une politique face à une opinion publique qui n'en veut pas. Et puis il y a les médias qui font leur taf, hein, je vous dis, qui font des enquêtes, qui révèlent des trucs, t'as des ministres qui déconnent. Moi, je me souviens, le quinquennat de François Hollande, l'une des premières désillusions, ça a été, comment il s'appelle, le ministre là, qui avait un compte en Suisse, Cahuzac. Cahuzac, ça a été un coup derrière la tête pour plein de gens à gauche, hein, qui étaient encore tout contents de l'élection de François Hollande en 2012, la victoire contre Nicolas Sarkozy, le retour de la gauche au pouvoir, etc. Cahuzac, il y a quand même beaucoup de militants socialistes qui ont fait la tronche, hein, qui étaient en mode ah ouais, on s'est battu et ce connard il a un compte en Suisse, il cache de l'argent en Suisse alors qu'il est ministre du budget. Les médias peuvent enquêter sur moi, j'ai pas de compte en Suisse personnellement. Être propre, ça peut aussi les aider. Les scandales ne sont pas une fatalité. Eh ben, l'exemple de Cahuzac, c'est le meilleur exemple. Lui, il a promis à tout le monde qu'il était propre. Comment tu fais pour vérifier? Puis t'as pas besoin d'être au pouvoir pour avoir des problèmes, hein. Rappelez-vous la perquisition de Jean-Luc Mélenchon. Ça, typiquement, c'est un accident de parcours pour un parti politique et pour Jean-Luc Mélenchon en personne. Quand il s'est énervé en disant La République, c'est moi, et qu'il a perdu quand même beaucoup de prestige à ce moment-là, ça a été un accident de parcours pour la France insoumise, qui pourtant n'est même pas au pouvoir, hein. Donc un accident de parcours, ça arrive dans toutes les formations politiques. L'affaire Quatennens, ça a été un accident de parcours pour la France insoumise. Ça n'a pas été facile, hein, en interne à gérer. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, la vie politique n'est pas un long fleuve tranquille où tout se passe bien, où le pouvoir. Enfin, je vous jure que l'exercice du pouvoir, pour y avoir participé, c'est difficile. Ça a sa part de difficultés, de manifestations, de contestations, de chroniques acerbes dans les matinales de radio, de questions difficiles de journalistes, de questions au gouvernement tous les mardis et tous les mercredis en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier auxquelles il faut répondre. Des arbitrages que doit rendre le Premier ministre entre des ministères qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres et pourtant il faut bien arbitrer et avancer. C'est aussi des couleuvres, des déceptions, des compromis. C'est beaucoup de choses, l'exercice du pouvoir. Même la base est blasée de la façon dont ça a été géré, Quatennens. Bah, tu vois, la base dans un parti, c'est la même chose que l'opinion publique quand tu es au pouvoir. T'es obligé de tenir compte de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle dit. Être en responsabilité en politique comme dans une entreprise ou même dans sa maison, c'est s'adapter aux réalités du terrain. Une guerre, une crise économique, une pandémie, ton bras droit, super efficace, mais vlan, on apprend qu'il tape sa femme, ouais. Et un terrible attentat qui te pousse à faire du sécuritaire, bref, c'est la vie. Ouais, ça me fait penser aux gens qui n'ont pas d'enfants et qui se imaginent quelle sera l'éducation qu'ils donneront à leur enfant. Moi, c'est mon cas, j'ai pas d'enfant, donc je suis pas au pouvoir, tu vois. Je peux essayer de me faire un plan dans ma tête de comment ça se passera, comment je voudrais que ces choses se passent. Je peux même écrire un programme, hein. Puis après, le jour où j'aurai un enfant, là, je vais faire face au réel. Voilà. C'est une belle allégorie, je trouve. C'est une belle allégorie de. Tu veux le pouvoir, tu te bats pour vouloir le pouvoir, tu te présentes aux élections, à la présidentielle, etc. Et puis, ça y est, t'es au pouvoir. Et là, bon courage, c'est à ton tour. Amuse-toi bien, hein. Au fait, t'as promis des trucs. Oublie pas, hein. Ouais, il y a peut-être deux, trois trucs que tu regrettes, ouais. Ouais, t'aurais dû faire gaffe quand tu les as promis, parce que. Ça va être compliqué, hein. Ouais. Bah, c'est trop tard maintenant. Allez, courage. Haut les cœurs. D'où l'intérêt initial de la décentralisation. Ah, mais ça t'empêche pas d'avoir le pouvoir, que la République soit décentralisée ou pas. Puis par ailleurs, ça repose le même problème au niveau local. T'as l'air quand même vachement désabusé par la pratique. Hein, de quoi ? Par la pratique, à croire que personne pourra jamais rien faire pour améliorer les choses. Si, mais non, mais c'est pas ce que je vous dis. Je suis pas en train de vous dire qu'aucun politique ne trouve grâce à mes yeux, etc. Je suis en train de vous dire qu'au contraire, il y a beaucoup de choses à faire, mais que c'est difficile. C'est tout ce que je dis, c'est que l'exercice du pouvoir, quel que soit votre camp politique, est un exercice difficile. Tu peux te bercer d'illusions quand t'es dans l'opposition, tu peux te dire que ce sera facile et que les hirondelles reviendront au printemps, tu peux te raconter des jolies histoires. Le fait est que le jour où éventuellement tu seras élu et ce sera à ton tour de gouverner, ce sera le début des emmerdes. Mais ça veut pas dire que tu peux rien faire, ça veut pas dire que tu peux pas changer les choses, ça veut pas dire que tu peux pas embarquer le pays dans une direction qui est la tienne, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Jean n'est plus un idéaliste, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire quoi être un idéaliste? Mais si, c'est pas vrai. Moi, j'ai plein d'idéaux. Je suis un démocrate. C'est pas pour rien d'ailleurs que je suis sur Twitch et que j'essaie de vulgariser la politique. C'est parce que je veux former des citoyens, comme on disait au 19e siècle. C'est bien que j'ai des idéaux plein la tête, heureusement. Des idéaux Kojima, évidemment. Des idéaux Kojima, toujours. Olivier Marleix est décédé. Olivier Marleix est décédé. Ah merde. Eh ben je ne savais pas. Toutes mes condoléances à sa famille. Ce qui me dérange, c'est que tu parles comme si tout en politique était en continuité, alors que de nombreuses analyses montrent que ça s'empire. Par exemple, le rapport à la vérité qui a changé sous Macron. Mais à quel moment j'ai dit l'inverse ? Tiens, bah, ça aussi, c'est une difficulté. Ça aussi, c'est une difficulté. Les théories du complot qui augmentent sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Enfin, je veux dire, c'est... Gouverner un pays comme la France aujourd'hui, ce n'est pas du tout de la même manière que gouverner un pays comme la France il y a 20 ans. Certes, il y a toujours la télévision qui joue un rôle important, mais déjà, la télévision, il y a les médias Bolloré, et ça, c'est une donnée qu'il faut prendre, c'est une donnée du problème, hein, qu'il faut tenir compte. Et puis aujourd'hui, l'ère de la post-vérité, comme l'explique très bien Clément Viktorovitch d'ailleurs, le fait que le rapport à la vérité a complètement changé ou que ça ne sert plus à rien de dire quelque chose. C'est un truc dont tu es obligé de tenir compte, quoi. Regardez par exemple un truc très intéressant. La pandémie du Covid. Pandémie du Covid, c'est très intéressant comme exercice. N'importe quel gouvernement, je ne sais pas quel est le dos de droite, de gauche, de diagonale, j'en ai rien à foutre, qui se retrouve face à devoir gérer une pandémie comme celle du Covid, la question des masques, pas des masques, etc. Et là, apparaissent les anti-masques. Il y a des gens sur Facebook qui refusent le masque et qui commencent à s'organiser, ils commencent à se coordonner, et puis ils ont des stars. Ils commencent à avoir des personnalités charismatiques qui prennent le lead dans le mouvement, etc. Bah, c'est une réalité, en fait, avec laquelle tu es obligé de faire. Le fait que des gens disent que la Terre est plate et se défendent à coups de « j'ai le droit de ne pas suivre tes croyances ». Ouais, voilà, c'est ça. La réalité invente des problèmes inédits. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On n'est pas... Comme dirait Jean-Luc Mélenchon, l'histoire s'écrit par des gens qui ont le regard porté vers l'avant. C'est pas en regardant les livres d'histoire qu'on apprend à gouverner aujourd'hui. C'est-à-dire, les choses changent. Donc... Encore une fois, j'ai l'impression de passer pour un mec défaitiste et de vous livrer un regard sur la politique complètement désidéalisé, etc. Je veux surtout pas vous empêcher d'avoir des idéaux. Au contraire, d'avoir des envies, des espoirs. Et c'est même très important, je pense, pour avancer, y compris dans sa vie de citoyen, d'avoir des espoirs et d'avoir pas que des rancœurs. Démoralise pas les jeunes. Non, mais c'est ça, je veux pas vous démoraliser. Moi, j'essaie de vulgariser la politique, de la rendre accessible, etc. Et donc, ça m'amène à vous dire que toutes les personnes qui ont eu le pouvoir entre les mains ont galéré à l'exercer. Voilà, gardez ça, mettez ça dans un coin de votre tête. Et vous empêchez pas de rêver. Hein. Il faut continuer à rêver. Bien sûr! Je comprends pas à quel moment t'es démoralisant, tu exposes juste des faits. Non, non, mais ça peut faire bader des gens. Vous êtes très différents les uns des autres. Hein. Il y a des gens sur le chat qui sont à la recherche d'un boost d'endorphine de gauche, comme ça, d'avoir des tokens qui sont validés où ils entendent des trucs de gauche, ça leur fait du bien. Et ils trouvent leur shoot un peu partout sur Twitch ou sur YouTube ou sur Twitter. Il y en a d'autres qui sont giga démoralisés, qui veulent plus rien entendre. Il y a des gens saoulés sur le chat. Il y a des complotistes. Des fois, il y a des gens qui débarquent comme ça dans le chat et qui disent « Vous me faites marrer à parler de politique alors qu'on sait très bien que c'est les États-Unis qui dirigent l'Europe. » Salut. Il y a des gens qui veulent de l'espoir, il y a des gens qui... voilà. Moi, je peux pas vous donner votre cam à tous. J'essaye de vous donner vos shots respectifs, mais c'est pas toujours facile. Pas ouf, le dealer. Ouais, vous avez vu, je vends très très mal ma cam en plus. Hein. Donne-moi ma dopamine. Moi, si je regarde Jean Massier, c'est parce que je veux de la dopamine. Je veux des petits shoots de dopamine. Je veux de la positive attitude. Mais non, mais, non, mais au global, non, parce qu'on rigole, on rigole, mais au global, sur ma chaîne, au global, on rigole bien. Franchement, on est entre nous, on rigole bien. Passe des bons moments. N'en déplaise aux grincheux. On se marre. Alors, on essaye de rigoler avec des trucs qui sont pas marrants, genre Macron 2032, tout ça. Bon, d'accord. Mais on arrive quand même à trouver des raisons de se marrer un peu. À part quand on parle de politique. C'est ça, faut parler d'autre chose que de politique. Les détesteurs vont détester. Merci Christobis, merci Cacahuat, merci Goudoff, Fawi, Clix, Quelqu'un, Andromède, merci beaucoup pour vos subs. J'imagine que pour toi, Jean Massier, le numéro vert mis en place par le gouvernement pour la canicule sauve des vies. Non, un numéro vert n'a jamais sauvé la vie de qui que ce soit. Un numéro vert, ça donne de l'information, ce qui est utile dans des moments où il faut passer de l'information précise à des gens en demande d'information. Voilà. Comme tous les numéros verts, c'est à ça que ça sert et c'est pour ça que c'est utile. Question importante, est-ce que tu arrives de parler de politique avec tes proches, vu que c'est ton métier, ou ça te saoule pas? Ah, des fois, je démissionne. Hein. Des fois, on est dimanche, on est à l'apéro, foutez-moi la paix. Hein. J'ai pas envie de me lancer dans une analyse, là. Venez, on parle d'autre chose. Venez, on parle du chien. J'y connais rien, en chien. La L'analyse des proches, t'en penses quoi? Ah, moi, je suis moins chiant qu'avant. Pareil, j'ai de la bouteille maintenant. Avant, j'étais le mec qui avait raison. Parce que, évidemment, que j'ai raison. Attends, la politique, c'est un peu mon domaine, d'accord? Donc, je sais ce que je dis. C'est bon maintenant, hein. Donc, vous allez me laisser parler, vous allez tous m'écouter, et vous allez me laisser le dernier mot. Voilà. Donc, ça, j'étais un petit con. J'étais vraiment un merdeux. Maintenant, je ferme ma grande gueule. Je ferme ma grande gueule et j'écoute les gens me parler. Parce qu'en fait, les gens, ils ont aussi le droit de pas voir la politique de la même manière que moi. Ils ont carrément le... Ouais, il y a même pas de problème, en fait. C'est, vas-y, comment toi, tu vois les choses? Qu'est-ce que t'en penses de Macron? Et les ministres, machin. Ah, lui, je l'aime bien, lui, je l'aime pas, et tout. Bah, vas-y, j'accueille l'opinion de l'autre. Vas-y, envoie. Ah non, je suis moins chiant qu'avant, hein. Non, mais moi, quand j'étais jeune, je vous ai dit déjà que j'étais un connard quand j'étais jeune, mais déjà, fallait pas m'inviter en soirée, hein. Moi, tu m'invitais en soirée, je finissais vissé sur le canapé avec deux mecs assis à côté de moi, et on parlait de politique, on refaisait le monde pendant toute la soirée. Super. Super. Ah bah, heureusement qu'on l'a invité, celui-là, hein. Maintenant, c'est terminé. Voilà, maintenant en soirée, j'en ai plus rien à foutre de la politique. Maintenant en soirée, je bois des verres et je discute avec des gens que je connais pas. Et je suis en mode, vas-y, raconte, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi, c'est quoi, tu fais quoi dans ta vie? Ah, c'est énorme. Trop bien. Vas-y, raconte. Bon, la seule exception, c'est Usul. Usul, quand on passe des soirées ensemble, on refait le monde. C'est vrai. Mais on est abonnés, ça fait partie de la routine entre nous. Mais c'est pas des soirées, on est que deux, on est alors, les deux connards là. J'imagine qu'on t'a déjà posé la question 1000 fois, mais d'où te vient cet amour de la politique? C'est une bonne question, ça. Moi, la politique, je l'ai découverte par le biais de l'associatif. J'ai commencé mon engagement dans l'associatif. Alors, mes potes, j'ai passé le week-end avec mon meilleur pote d'enfance qui m'a dit que j'étais déjà à l'adolescence, j'étais très curieux, ouvert sur le monde et sur l'actualité politique. Donc, je crois que quand j'étais au collège, j'étais curieux des questions au gouvernement, à l'Assemblée et tout, mais j'étais pas encore politisé. Et après, au lycée, je me suis engagé dans le secteur associatif. Là, j'ai découvert le monde de l'associatif. Je suis tombé amoureux de ça. J'ai été responsable associatif dans plusieurs structures. Et c'est par ces associations que j'ai rencontré la politique. Et à peu près au même moment, il y avait le CPE. Donc j'ai fait des manifs, j'ai fait des AG dans mon lycée. Donc je me suis engagé. Je suis devenu un gauchiste, bien gauchiste. Bien pète-burne pendant quelques années avant de décider de laisser tomber complètement l'engagement politique parce que c'est pas mon truc. J'ai pas envie de devenir un militant, ça m'intéresse pas du tout. J'ai envie de rester dans l'associatif. Donc j'ai fait mon choix entre l'associatif et le politique. Je suis allé vers l'associatif. Et je suis retourné au politique à la fin de mes études quand j'ai voulu devenir collaborateur de cabinet et bosser dans la politique, mais cette fois-ci comme professionnel. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait être politisé? Non, je ne pense pas que tout le monde devrait être politisé. Déjà, je trouve ça extrêmement péremptoire comme réclamation que les autres devraient être politisés comme moi je le suis. Vous avez le droit de ne pas aimer la politique et de ne pas avoir envie de vous en soucier. Vous avez le droit. Je respecte l'autonomie et la liberté de l'individu en démocratie, y compris le droit de s'abstenir aux élections. C'est pas parce que moi, la politique, c'est un peu mon truc, que ça devrait être le truc de tout le monde. Et j'apprécierais pas qu'on m'impose à moi des trucs qui m'intéressent pas plus que ça, et qu'on me dise tu devrais, c'est hyper important. Bah non, en fait. Enfin, pour toi, ouais, je le respecte. Mais moi, dans ma vie, ça l'est pas. Moi, j'aime bien le jeu vidéo. je considère qu'il n'y a aucun problème à pas jouer aux jeux vidéo. Genre vraiment, il y a pas, c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Tu joues pas aux jeux vidéo, tu joues pas aux jeux vidéo, c'est très bien. Il n'y a absolument pas de souci. Mais par exemple, j'aime pas le cinéma. J'ai jamais été très cinoche. Bah, je suis un nerd comme les autres, hein. J'ai regardé Seigneur des Anneaux 20 fois et tout, mais un passionné de cinéma qui me prendrait de haut en me disant, ah ouais, tu t'intéresses pas au cinéma, putain, pourtant c'est la culture. Je lui dirais, va bien te faire foutre en fait. Enfin, tant mieux pour toi si t'es un cinéphile hyper averti, que t'as tout regardé. Non, bah, très bien, vas-y. Mais moi, pas mon truc, quoi. Donc fous-moi la paix, en fait, nique ta mère. La politique, pour moi, c'est pareil. Je veux dire, je pense pas que tout le monde devrait être politisé. Je pense que les citoyens devraient être avertis, mais je pense pas que c'est à eux de devenir avertis. Je pense que c'est à la politique de les avertir. Mais je pense pas que tout le monde devrait être politisé, quoi. La différence, c'est que le politique a un impact plus concret sur nos vies et a des responsabilités. On a des responsabilités en votant. Ouais, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. Je dis pas que le vote n'est pas important. Je dis que les citoyens devraient être avertis, avoir accès aux médias, avoir accès à l'information, c'est important. Je le pense. J'essaye de faire ma part sur cette chaîne, d'ailleurs. Mais non, je n'attends pas d'un citoyen qu'il soit à mon niveau, à moi, de connaissance de l'actualité politique pour être un bon citoyen. Ça, je respecte aussi les gens qui travaillent, par exemple. Parce que, alors moi, c'est facile, pardon, mais mon métier, c'est littéralement de m'informer sur la politique. Je n'ai que ça à foutre de la journée. Si je me mettais à attendre la même implication de la part de gens qui bossent toute la journée, qui doivent prendre le RER pour aller travailler, etc. Tiens, mais bon courage, quoi. Je défends aussi la marginalité. Je pense qu'un citoyen a le droit de vivre en marge de la société. Je pense. Pas obligé d'être dans le moule. Pas obligé de faire comme tout le monde. Oui, je sais, j'ai vu que Olivier Marleix était suicidé. Je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Olivier Marleix a mis fin à ses jours, j'en suis désolé. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est un député du groupe Les Républicains, ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. C'est une nouvelle qui vient de tomber. Voilà. Je vous passe l'info, je ne sais pas quoi vous dire. C'est terrible pour lui et pour ses proches. Faut-il renvoyer les noms politisés d'où ils viennent? Non, on en avait déjà parlé, je me souviens, on avait une discussion intéressante là-dessus sur à quel point est-ce que la politique doit être attrayante? À quel moment est-ce que c'est à la politique de faire l'effort aussi de s'adresser aux gens et de réussir à les toucher? C'est pour ça que moi, je ne suis pas hostile à ce que les politiques aillent sur TikTok, aillent sur Instagram, etc. Je vous ai toujours dit, notamment à vous les plus éloignés de la politique, les gens qui n'aiment pas la politique, les gens qui ont un rapport conflictuel avec la politique, je vous ai toujours dit, n'en voulez pas aux politiques d'essayer de vous parler. Voilà, on est en démocratie. Va y avoir des gens qui vont essayer de vous séduire. Ça va être leur taf, ça va être d'essayer de vous convaincre de soutenir leurs actions, voire même de voter pour eux aux prochaines élections. C'est normal en démocratie, ça fait partie du cycle habituel de la vie démocratique, d'avoir des politiques qui viennent dans les matinales de radio, qui viennent sur Backseat, qui viennent à la télévision, qui viennent dans votre feed Twitter, etc., et qui essayent de vous convaincre et tout. Je ne vous dis pas que vous devez tous les écouter, vous avez le droit de les envoyer chier, vous avez même le droit d'en bloquer, il n'y a aucun problème, mais ne leur en voulez pas d'essayer. Voilà, ils ont le droit de tenter de vous convaincre de quelque chose. Et je pense que la politique devrait être encore plus attrayante. Je pense que la politique devrait continuellement continuer à réfléchir, à adapter ses formats. Je trouve que pour l'instant, les politiques se démerdent pas trop mal. Enfin, je vois les campagnes qui sont faites sur Instagram, sur Twitter, etc. Je trouve que c'est plutôt adapté. Sur YouTube, aujourd'hui, il y a des jeunes communicants qui sont très très forts. Ça devrait pas, propose ton programme et c'est tout. Bah non, je suis pas d'accord avec toi. La politique, c'est pas que des programmes. La politique n'est pas qu'un programme informatique qu'on doit appliquer, appuyer sur on et tout se déroule. Et non, la politique, c'est vivant, c'est humain, c'est fait par des institutions, c'est fait par des personnes, par des groupements, des politiques, des mouvements sociaux aussi. Donc oui, les politiques ont le droit d'essayer de me séduire. Je leur en veux pas d'essayer. C'est impossible de pas être politisé en 2025, on voit ça partout. Je suis pas sûr hein, qu'on voit de la politique partout, partout. Si seulement les programmes se déroulaient comme tu le crois. De quoi? Les programmes se déroulent mal. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va pas refaire la discussion de tout à l'heure, où je vous expliquais que il y a des couacs, il y a des bugs dans le programme informatique. Si la politique n'est pas attrayante, ne vous plaignez pas de l'abstention. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je maintiens que c'est pas en s'en prenant aux abstentionnistes qu'on va régler le problème de l'abstention. Voilà, je peux le dire comme ça. C'est pour ça que je suis contre le vote obligatoire. C'est pour ça que je suis contre une manière de parler aux abstentionnistes en leur disant « Voter, c'est un devoir. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont morts, d'accord ? Donc faut voter. » Je supporte pas ces injonctions. Je trouve ça méprisant. Les bons citoyens votent, les mauvais citoyens ne votent pas. Ah bon ? Déjà, à quelle heure ? C'est pas du tout ma philosophie. Merci Ariane, merci Neoken, Flambule, Drant, Christobis. Merci pour vos resubs. Il y a des citoyens qui regardent pas Jean Massier, c'est des mauvais citoyens. Non, les bons citoyens, c'est ceux qui s'abonnent. Après, je dis ça, je dis rien. Après, moi, je suis pas là pour faire des hiérarchies. Hein. C'est juste une donnée factuelle, selon les catégories de l'INSEE. Voilà, c'est tout. Citoyenneté sans ITER. Ah bah voilà, de pire en pire. Limiter le droit de vote à ceux qui payent des impôts. Ça, tiens, allons-y, tiens. Excluons les pauvres du droit de vote. Faisons simple. Nous sommes libres de nous abonner ou non et de nous plaindre du contenu, même si nous ne sommes pas abonnés. Ouais. Et je suis libre d'accorder une importance variable à ta plainte en fonction de si t'es abonné ou pas. C'est ça le jeu. Mais je suis d'accord avec toi. On est dans un régime de liberté ici. Je suis abo, je peux transmettre les plaintes si besoin. la TVA, les cotisations, on les paye. Ouais, mais c'est pas pareil que l'imposition sur le revenu. Voilà, on va faire un barème d'imposition sur le revenu avec droit de vote que si tu payes l'impôt sur le revenu. Voilà. On choisit l'impôt du suffrage censitaire. Tu feras attention, ils annoncent de forts orages dans la région parisienne. Merci. Merci la vigilance météo dans le chat. Attends, je regarde. Ah non, merde, j'ai fermé les volets. Pour l'instant, ça va, j'entends rien. Plus tu payes d'impôts, plus ton vote compte. Oh, quel enfer. Avec un système de barème et tout. Mon Dieu. Le poids du vote qui est indexé sur le taux d'imposition. Brrr, quel cauchemar. Non, c'est une idée de merde. C'est une idée de merde. Hein. Le vote censitaire est une idée de merde. Le vote obligatoire aussi. Enfin bon, vous avez le droit de pas être d'accord, hein, évidemment, mais mon opinion est faite. Un streamer en appartement, l'impact des orages est quand même limité. Je dis ça depuis ma voiture, dans mes vignes, en attendant que l'averse passe. Courage à toi. Courage à toi. Qu'est-ce que tu penses des référendums, un danger? J'aime pas les référendums, moi. Je trouve ça à chier, je trouve ça césariste, je trouve ça. Poser une question à laquelle on doit répondre par oui ou non, je trouve que c'est vraiment pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, quoi. C'est bien s'il y en a de temps en temps, mais je trouve que le danger démagogique est très important. Tu me diras avec les élections aussi, hein, c'est pas spécialiste, c'est pas spécialisé, mais je suis pas fan. C'était quand le dernier référendum? C'était 2005 sur le traité constitutionnel européen. C'est pour ça même que le référendum d'initiative citoyenne, je trouve pas que ce soit une innovation particulièrement intéressante en fait. Enfin, je comprends, ça a été réclamé par les Gilets jaunes à cor et à cri, donc tout le monde s'est un peu forcé à dire que c'était formidable comme idée, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir le droit de se poser à nous-mêmes des questions? C'est ça le référendum d'initiative citoyenne? Le peuple peut se poser à lui-même des questions? Mais c'est pas un outil de gouvernement, ça. À la limite, il faut réclamer la démocratie directe. Enfin, enfin, pour gouverner soi-même, quoi. Pourquoi pas, j'en sais rien. On peut en discuter. Mais référendum d'initiative citoyenne, c'est une idée pas inintéressante, mais pour laquelle je descendrai pas dans les rues avec un panneau, quoi. Je sais pas. Moi, par principe, je suis favorable à plus de démocratie, donc je suis pas fermé à ce qu'il y ait plus de possibilités d'avoir des votations, d'avoir des conventions citoyennes au niveau national ou au niveau régional, avec du tirage au sort, pourquoi pas. Le truc pas fou du référendum, c'est que ça devient un combat entre groupes politiques et pas un débat sur les idées. Ce que tu dis est valable pour tout, au demeurant, pas spécifiquement les référendums. Pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est un fiasco. Ah oui, on n'a pas respecté le vote d'ailleurs des gens qui ont voté pour Non, parce qu'il y en a plein qui disent en permanence qu'on n'a pas respecté le vote en 2005. Du référendum pour le TCE. En général, je rappelle qu'on n'a pas respecté le vote non plus pour le référendum sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Être contre les référendums, c'est avoir peur du peuple. Non, pas spécifiquement. Tu peux être contre les référendums pour avec des arguments démocratiques. Hein. Ça peut se défendre de trouver que l'outil est pas ouf et qu'il faut pas en faire l'alpha et l'oméga de la vie politique, quoi. Notre-Dame-des-Landes, il y a un grand souci d'échantillons de population consultée, c'est donc pas un argument. Ah, c'est pratique, hein. C'est pratique, il suffit de contester l'échantillon, comme ça on peut contester le résultat. Non, non, c'est... T'es efficace. Pas nécessaire de cliver le peuple pour le faire participer. Non, c'est sûr, mais personne ne clive le peuple volontairement, hein. J'ai jamais entendu des gens souhaiter cliver le peuple par principe et par plaisir. C'est quoi qui n'a pas été respecté pour Notre-Dame-des-Landes? Bah, c'est que les gens ont voté oui à l'aéroport, et qu'à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas d'aéroport. Donc les référendums locaux, visiblement, on peut s'en passer. Celui de Nantes va même s'agrandir. L'aéroport, bah oui, ils sont obligés. Pour augmenter le trafic, l'aéroport de Nantes va être agrandi, ouais. Ça existe localement, les référendums. Ouais, ouais, ça existe localement, les référendums. Ça a été renforcé par la réforme de 2008, en plus. Tu peux faire des référendums à l'échelle régionale, à l'échelle de plusieurs départements, etc. La ZAD s'est constituée avant ou après le référendum? Avant. De mémoire, c'était avant. C'est quoi la réforme de 2008? C'est une réforme de la Constitution. Décès d'Olivier Marleix. Oui, je sais. Décès d'Olivier Marleix, on l'a appris. C'est très triste. Est-ce qu'il y avait eu un référendum pour le passage de 7 à 5 ans pour la présidence? Ouais, c'était le référendum de l'an 2000. De mémoire, c'était en 2000. Référendum sur le quinquennat. Demain, les amis, on va se retrouver pour la séance des questions au gouvernement. Ce sera la dernière séance de questions au gouvernement de l'année, si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y en a pas mercredi. Donc demain, séance de questions au gouvernement. On va faire un raid chez Ponce, qui est en train de regarder le Maître des Fleurs. Donc demain, je vous donne rendez-vous à 14h, ça vous va? Demain, 14h, rendez-vous pour la séance des questions au gouvernement. Et voilà. Tirette chez Ponce. Merci d'avoir été là, les copains. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. C'était très chouette de discuter avec vous encore une fois. Et merci d'être venu. Merci les subs. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.